Vous écoutez
RMC.
RMC.
Comment tu peux me faire ça, Colin? Comment, Rebecca, tu peux me faire ça? À moi, ta copine. Comment?
Pour revenir sur Dzeko un instant, parce que moi, c'est, vous le savez, hein, j'en ai parlé souvent, c'est un joueur que j'adore. Et je pense qu'en numéro 10, on n'aurait pas été loin d'un niveau de Zidane.
Salut Zizou. Merci Zizou.
Il y a des choix individuels qui ont été faits par Tourol que je trouvais très intéressant ce soir, le fait de laisser Thomas Tourol sur le banc.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Et oui, c'est Génération After spécial Drôle de Dame, exceptionnellement le mardi soir, la seule émission, vous le savez, qui à la radio parle pendant 2 heures de football étranger avec 4 experts, toujours moins chers que DAZN, même après la ristourne. C'est parti les amis, on est ensemble jusqu'à 22h. Pour l'Allemagne, une drôle de dame qui a quand même trouvé le temps de regarder la Nationalmannschaft malgré la Vuelta, alors que les JO, rien à faire. Polo Breitner, bonsoir mon cher Polo. Polo, es-tu là?
Je regarde les JO,
ouais.
Mais seulement les activités qui m'intéressent.
À savoir, le vélo.
Le vélo, par exemple.
L'Italie, une drôle dame qui, tel Garibaldi, vit son Risorgimento, reconstruction et unité autour de la nationale et de la GIA. Bonsoir, Johan Crochet.
Bravo, Nico. Bonsoir à toutes et à tous.
Pour l'Espagne, une drôle dame qui a été plus émue par la nomination de Michel Barnier que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real. Bonsoir, Fred Armel.
je l'ai pas vu venir, celle-là.
Moi non plus.
Ah ouais, d'accord. Écoute.
Bah, si tu veux réagir,
c'est kiff-kiff.
Ouais, c'est kiff-kiff. Hein. Pour l'Angleterre, une drôle dame qui est orpheline de son Sylvain Ripoll anglais. Laissez-lui encore quelques matchs et Lee Carsley deviendra le Ghislain Printemps anglais. Bonsoir, Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous. Je pense que Lee Carsley ne prendra pas le même chemin que le Sylvain Ripoll.
J'ai l'impression que ça part bien pour l'instant. Même s'il y a une polémique, on en parlera. Vos 3 points, les drôles de dames, 15 secondes chacune. Je commence avec toi, Johan.
On va évoquer évidemment les 2 matchs de la Nationale et avec 2 angles précis, les gagnants et les perdants de ce début de nouveau cycle en sélection. Et parmi les gagnants, il y a David Fratesi, un vrai focus sur lui. Le seul joueur qui est indispensable, mais qui est quasiment jamais titulaire.
Polo.
Bon, évidemment, on va s'intéresser à cette nouvelle Nationalmannschaft et notamment à un certain duo Wirtz-Musiala. Un peu d'une minute un petit peu spéciale où on ira voir du côté d'Offenheim et puis on aura peut-être un petit débat sur les formats de qualification.
Fred.
Bien entendu, on va parler de la Roja, l'équipe de la sélection espagnole, avec quelqu'un qui impressionne tout le monde, Fabián Ruiz, hein, ça va intéresser les Parisiens. On va parler aussi de la fin de l'obsession, du dogme de la possession. C'était que 38% l'Espagne face à la Suisse en Suisse. On va parler aussi, il y a une idée de Polo, de ce club dans notre championnat qui nous intéresse pas du tout, ou en tout cas moins que les autres. Et moi, bien entendu, j'ai le mien, je ne veux pas le dire, mais sauter à l'esprit tout de suite.
Julien.
On va parler de l'Angleterre aussi, bien sûr. Deuxième match ce soir, là, tout à l'heure, à 20h45, heure française. On va parler d'Harry Kane. Est-ce qu'il y a un débat autour d'Harry Kane? On va parler de Lee Carsley, on l'a dit tout à l'heure déjà, le nouveau sélectionneur, en tout cas par intérim. Et puis, une petite minute sur nos amis gallois et Craig Bellamy.
Voilà le programme des drôles de dames jusqu'à 22h sur RMC. Je vous rappelle, à 21h45, elles seront face à vous, auditeurs d'RMC et de l'After. Vous appelez le 32-16 est ouvert. Posez vos questions à Fred, Polo, Johan et Julien. Et puis à 22h, bien sûr, l'After avec Gilbert. Bonsoir, Gilbert.
Salut, les gars. Vous savez que vous me faites rêver. Hein.
Quoi?
Bah parce que nous, on va parler élection à la Ligue.
Et élection à la Ligue.
Plainte de l'UNFP contre l'UNFP et Panini. Enfin, que des sujets, des trucs, voilà,
déprimant.
Le football français, quoi, qui va bien, qui se régale, qui nous régale de jour en jour. Bon, il n'y aura pas que ça, mais il y aura ça tout de même, puisque donc on va décrypter ce qui s'est passé aujourd'hui lors de l'élection de la Ligue. Vincent Labrune réélu triomphalement cet après-midi. Et on va également parler d'équipe de France parce que Florent Gautreau veut clôturer la semaine équipe de France avec un dernier débat autour de la gestion à venir de Griezmann et Mbappé. Et puis l'OM est de retour, conférence de presse de De Zerbi et Mopé ces dernières heures. On va en débattre également ce soir, sans oublier les matchs internationaux de ce soir. Donc on aura quelques drôles de dames avec nous après 23h, les gars, parce que vous êtes concernés par les matchs qui démarrent tout à l'heure à 20h45 pour certains d'entre vous.
Exactement, Angleterre-Finlande et Pays-Bas-Allemagne.
À tout à l'heure,
Gilbert, pour l'after. Tu as des tours également par le direct. C'est l'équipe de France Espoir qui joue contre la Bosnie-Herzégovine. Match de qualif pour l'Euro Espoir 2025. Valentin Jamin est sur place. Bonsoir, Valentin.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Ça se passe très bien pour les Bleus qui mènent 2-0 à 10 minutes de la fin. Marnes Akliouche un peu après la demi-heure de jeu. Et Hugo Ekitike pour sa première sélection qui a marqué un pénalty en deuxième période qu'il avait lui-même provoqué. Même schéma qu'en première période, sauf qu'il avait manqué le pénalty qu'il avait provoqué. Donc le joueur de Francfort qui fait un bon début de saison marque pour sa première titularisation et première sélection avec les Espoirs. 2-0 pour les Bleus, match de qualif à l'Euro 2025. Faut terminer premier de la poule pour s'assurer la qualif. Pour l'instant les Bleus sont deuxième, mais il restera deux matchs ensuite et ils ont leur destin en main. Il reste 10 minutes dans cette partie. 2-0.
Ça fait des audiences chez vous les amis, les matchs Espoirs ou pas? Est-ce que c'est une préoccupation?
C'est même pas la télévision.
Non, non, c'est même pas la télévision.
C'est même pas voir. C'est même pas la télévision.
On espère que tu le vois. Non, c'est pas.
Rien à faire.
Si on le voit en Allemagne, et c'est redevenu très très important et comme une figure de proue du football allemand. Quoi. Lorsqu'ils se sont fait éliminer pour l'Euro, que je vous dise pas, ils s'étaient pris 4-0, je sais plus, face à la Suède ou au Danemark ou au Portugal en demi-finale d'un Euro, et c'était devenu c'est presque un scandale national. Donc c'est diffusé, et par contre en fonction des pays, c'est pas forcément bien diffusé, quoi.
C'est suivi pas par une grande majorité. Ce qui est bien aussi qu'on a en Italie, c'est que le site de la fédération diffuse beaucoup de catégories de jeunes, y compris les U17, U18, U19, U20. Il y a des matchs qui sont disponibles gratuitement sur le site de la fédération.
Donc du foot gratuit. Exactement. Ça fonctionne toujours un peu mieux, bien sûr. L'Espagne, Fred, qui surfe toujours sur sa vague estivale. Un 0-0 miraculeux pour la Serbie, jeudi. Oui. Et un carton contre la Suisse dimanche soir. 4 buts à 1, à 10 contre 11 pendant quasiment 75 minutes.
Parce que le Normand a été expulsé au bout de la 20e minute.
Dès la 20e, ouais. Doublé de Fabien Ruiz. Tu voulais en parler ce soir. Il est sur un nuage depuis 3 mois. Je pense aux supporters parisiens qui se demandent qui est ce Fabien Ruiz.
Il y a même des Espagnols qui se demandent qui est ce Fabien Ruiz. Parce que finalement, et on en discutait avec Johan, et je vais demander l'avis de mon ami spécialiste du foot italien, le club dans lequel il est resté le plus longtemps, c'est quand même Napoli. Hein, il est resté 4 ans. Je veux dire, Fabien Ruiz, c'est quelqu'un qui était formé au Betis, qui était au Betis B, qui est resté 2 ans au Betis, qui avait été prêté à Elche en deuxième division. Après, il part 4 ans au Napoli, et après, il vient au PSG. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un joueur important dans le championnat espagnol. C'est-à-dire que c'est, sur le championnat espagnol, bah, tu calcules, c'est une saison de première division et une saison de deuxième division. Donc, voilà, on est un joueur qui était considéré comme un bon petit joueur. Mais là, La question, c'était le premier drôle de dame, alors que tu étais encore sur les routes américaines, le premier drôle de dame de l'été, je m'étais dit, de toute façon, moi, ce qui va vraiment m'intéresser cette saison, c'est de voir comment ces joueurs qui ont explosé pendant l'Euro vont réagir. Est-ce qu'ils vont s'inscrire dans la continuité? Est-ce qu'ils vont maintenir ce niveau? Ou est-ce que ça aurait été, tu sais, un moment de grâce où tout a fonctionné, un groupe, tu sais, il y a un moment, c'est le contexte qui fait que tu es vraiment plus fort que tu l'es. Alors on va se poser la question sur Lamine Yamal, on va se poser la question sur Dani Olmo. Bon, Dani Olmo, il a pu faire ça ici au Barça, donc on va pour l'instant c'est pas trop mal. Et bien entendu, on va se poser la question sur Fabien Ruiz, parce que Fabien Ruiz, c'est quand même pas un joueur sur le papier où tu te dis, ah ouais, on avait parlé de lui au Real, on avait parlé de l'Atlético, on avait parlé de lui au Barça. Non, pas du tout. Et donc, voir Fabien Ruiz après ce moment magique de l'Euro jouer en patron, c'est-à-dire quelle que soit la configuration du match, là, l'Espagne est menée pendant 70 minutes. Ben, Fabien Ruiz, il a ce qu'on appelle le templer en espagnol, c'est-à-dire qu'il sait jouer le rythme, il sait quand accélérer, il sait quand ralentir le jeu, etc. Il y avait un papier dans le journal Marca qui disait, ben, si en plus il met plein de buts, voilà, qu'est-ce qu'il devient?
Comment tu l'expliques ça en fait? C'est un homme qui marche à l'affect.
Il a déjà 28 ans. Hein.
Mais il a un homme qui lui fait confiance.
Eh ben voilà.
Il donne beaucoup d'amour.
Il y a Luis de la Fuente. Ah, vous avez votre sélectionneur qui après le match contre la Suisse dit, de toute façon Fabien Ruiz, c'est le meilleur joueur du monde à son poste. Alors il le pense vraiment. Après vrai ou pas, il y a un débat. Mais en tout cas, il le dit. Bah, ça te gonfle. Moi, je trouve qu'il a une maturité qui arrive. Tu me diras, 28 ans. Aujourd'hui, on arrive à maturité peut-être un peu plus tard dans le football, parce que les carrières durent un peu plus longtemps. Donc, 28 ans, il a une vraie maturité. bah aussi, je pense que il surfe encore sur son mondial. Où il a tenté des choses, il a tenté des frappes, il a tenté des passes,
son euro
a fonctionné. Son euro, pardon. C'est, tu vois, il est aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est évident dans cette sélection espagnole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on sait qu'il va être titulaire. D'ailleurs, Rodri n'est pas titulaire au premier match, voilà, parce qu'il a besoin de se reposer un petit peu, etc. Fabien Ruiz, eh ben, on n'imagine pas aujourd'hui ces deux matchs de Ligue des Nations sans lui. Et il joue, et il est titulaire. Il joue 77 minutes premier match contre la Serbie, et il joue 80 et quelques le deuxième match en Suisse. Donc, moi, je suis très, très impatient de voir comment Luis Enrique va pouvoir lui aussi récupérer les fruits de Luis de la Fuente. Voilà.
Johan, t'es surpris par son évolution, en tout cas en sélection. Au PSG, on l'attend. C'est un joueur qui a quelques bons matchs, mais qui ne s'est pas imposé à Paris depuis son arrivée il y a maintenant deux ans.
Moi, je peux surtout évoquer le Fabien Ruiz du Napoli, pas trop en sélection, parce que ce n'est pas une sélection que je suis au quotidien. Donc, même si j'ai vu des matchs à l'Euro, j'ai un peu de difficulté à évaluer l'ensemble de sa progression. Au Napoli, ça a été un joueur très irrégulier, qui avait des pics très très hauts, d'état de forme, d'état de grâce quasiment sur le terrain, où il y avait une espèce de cheat code, un code de triche entre guillemets, où ça réussissait à chaque fois, si vous voulez. C'est centre en retrait, Fabien Ruiz est aux abords de la surface, petite frappe enveloppée et ça finissait souvent au fond. Ça a été un des joueurs qui marquait le plus de buts de l'extérieur de la surface en Serie A pendant qu'il
y était.
En se projetant, évidemment, il a évidemment cette qualité technique de tempo, mais c'est aussi un joueur qui avait des phases où il était très très effacé du jeu, où il ne prenait plus beaucoup de responsabilités, où il ne prenait plus beaucoup de risques, où c'était très latéral, où ça faisait pas spécialement avancer le jeu. Donc moi, c'est pas que je sais pas comment l'évaluer, mais ça peut pas être un top joueur par rapport à moi ce que j'ai fait. En tout cas, en Italie, ça a jamais été un top joueur. Ça a jamais été non plus un mauvais joueur. Ça a été un top joueur sur 3 mois, un mauvais joueur sur 3 mois, un top joueur sur 3 mois, un mauvais joueur sur 3 mois. Quel est son niveau réel? C'est difficile. Si ces pics de forme ne durent que 3 mois chaque saison.
Eh ben oui,
tu peux pas compter. Ça crée des limites quand même qui sont importantes.
En tout cas, mais en sélection, on peut compter sur lui. Et ça, c'est. En plus, faut quand même reconnaître, c'est un joueur élégant sur un terrain.
Bien sûr.
Oui, mais ça, il l'a toujours eu. Ça, mais
le port. Moi, j'aime beaucoup les joueurs qui ont
le port de tête. Oui, le port mais voilà. Une certaine lenteur dans l'exécution parfois.
Mais on appelle ça.
Mais ça, élégant aussi, peut-être. Aussi.
Moi, j'aime bien aussi,
Julien.
Non, gaucher aussi. Les gauchers sont toujours
bons. Moi, j'ai vraiment des.
T'es droitier ou gaucher, Julien?
Droitier, moi, mais je reste élégant quand même.
Non, moi j'ai des souvenirs comme à Naples de demi-saison, c'était pénible vraiment.
C'est mal fini d'ailleurs, on n'en voulait plus à la fin.
Oui, bon après à Naples c'est.
Ça finit rarement bien.
Mais moi vous parlez de Fabien Ruiz, mais je suis pas sûr que ce soit le plus important. Moi c'est l'équipe qui m'a impressionné.
Bien sûr.
C'est-à-dire cette une capacité à.
Ah oui, contre la Suisse.
À défendre contre la Suisse. Une capacité à défendre à 10 contre 11 qui n'était pas forcément la panacée pour connaître cette équipe. Alors évidemment côté suisse, ceux qui ont pris leur retraite internationale, on voit que le tiroir en Suisse il est pas extraordinaire, parce que quand on commence à sélectionner Wüthrich qui est responsable sur les deux premiers buts espagnols, ça devient compliqué. Donc Wüthrich, il a 29 ans, il joue au Sturmgrass, donc si c'était un grand défenseur, on le saurait depuis longtemps. Non, moi ce qui m'a frappé, c'est que lorsque l'Espagne se retrouve à 10 contre 11, c'est que on parle du beau football espagnol, mais les mecs ils ont travaillé pour garder ce résultat. Et je trouve que c'est presque plus important que de sortir un joueur de la sélection aussi bon a été Ruiz sur cette rencontre. C'est-à-dire moi c'est ça qui m'a frappé. Le 4-1, il débarque comme si c'était une équipe mature, l'équipe mature de 2024 à l'Euro qui maintenant qu'elle avait gagné, allait écraser tout le monde. Et même il pouvait lui arriver n'importe quoi. Et ça, je trouvais ça flagrant dans l'équipe, parce que quand les Suisses reviennent à 2-1 juste avant la mi-temps, tu te dis ah génial, ça va faire une superbe seconde mi-temps, ça va faire une attaque défense avec les Espagnols qui doivent jouer les comptes. Et c'est pas exactement ça ce qui se passe. Donc moi j'ai été impressionné par l'Espagne à ce niveau-là, et puis bon évidemment les Suisses ont perdu quelques joueurs qui va être difficile à remplacer, même s'ils jouaient pas mal dans le jeu par rapport au football espagnol, mais c'est ce qui est important, c'est l'Espagne aujourd'hui, c'est pas la Suisse quoi.
Alors la question de la possession, parce que j'ai vu des messages des réflexions. Oui, c'est normal qu'il n'y ait pas la possession. Ils ont été
à 30%
à 10 contre 11. D'accord. Mais c'est le plus bas taux de possession depuis 1994 à un match contre la Corée. Donc on est quand même dans un...
Laquelle
Laquelle Corée? Corée du Sud. Donc, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'Espagne, sans la possession, elle est capable de gagner 4-1 en Suisse. Tu comprends? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Espagne ne dépend plus de la possession pour gagner. C'est ça, aujourd'hui, il n'y a aucun dogme d'un côté comme de l'autre. C'est pas on refuse la possession, non, parce qu'ils ont normalement toujours la possession, parce que du fait de leur formation, on dit toujours, et de l'importance des milieux de terrain, logiquement, l'Espagne
ils
a la possession.
De fait, ils l'ont en finale contre l'Angleterre.
Voilà, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un problème et que t'as pas la possession, tu es capable d'adapter ton jeu et de faire autre chose et de gagner quand même. Et c'est ça la force de l'équipe de la FNT.
C'est surtout en deuxième mi-temps parce que moi j'ai pris les quart d'heure par quart d'heure la possession sur le match suisse Espagne. Il y a des choses très intéressantes dans le quart d'heure de l'expulsion. Donc c'est l'expulsion elle a lieu à la 20e entre la 16e et la 30e minute. Et là où tu peux te dire ils auraient paniqué etc. Ils ont 54% de possession. C'est-à-dire que même à 10 contre 11, dans ce quart d'heure-là.
Mais les amis, parce qu'il y a une
gestion. La gestion ne se fait pas d'abord par la défense, jusqu'à la mi-temps. Elle se fait dans la conservation du ballon, dans la sécurisation, dans la possession défensive. Ce qui est autre chose que la possession constructive pour se créer des occasions. Mmh. Et ce côté-là, malgré tout, reste bien ancré.
Voilà pour l'Espagne. Voilà pour Fabien Ruiz. Dans un instant, Kane est-il toujours aussi indispensable, indiscutable avec la sélection anglaise? On pose la question et on en débat avec Julien Laurence notamment et les trois autres rôles de dames. Vous écoutez RMC, on revient dans un instant.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Fred Hermel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Yoann Crochet, les drôles de dames sont là le mardi soir. Exceptionnellement, elles seront bien sûr là lundi prochain.
C'est bizarre.
Il n'y aura que 6 jours entre les drôles de dames. On va beaucoup se voir, plus que d'habitude.
Bah, tu nous as manqué.
L'équipe de France Espoir s'est imposée, Valentin Jamin, face à la Bosnie.
Les Bleus qui ont fait le boulot, victoire 2-0 à Cliouche et Kitike. La France remonte à la deuxième place de sa poule de qualif à l'Euro 2025 avec un match en moins. Il faudra gagner les deux prochains pour s'assurer de la première place et de la qualif directe à l'Euro face à Chypre et face à l'Autriche. Donc le bilan de ce rassemblement pour les Bleus, un nul face à la Slovénie. Et donc la première victoire de Gérald Batic à la tête de l'équipe de France Espoir. Ce soir face à la Bosnie, victoire 2-0.
Plus tard, Valentin, je vous rappelle également qu'on est en direct sur la chaîne YouTube de l'After, @after-foot, pour nous voir, vous abonner. Est-ce que Julien, t'es connecté à la chaîne YouTube, à distance, là?
Non.
Non. Bon.
Non, parce qu'il est concentré sur son micro.
Ah non, tu fais ce que tu veux. Il n'y a aucune obligation. Moi, je change rien.
Non, mais il a raison. Il faut te concentrer.
Non, mais j'ai pas trop envie de vous voir. Non, je rigole. Non, il faut que je vous regarde comment vous êtes habillé, si t'as encore un petit peu de bronzage ou pas.
Très sobre.
Parce que, est-ce que t'es en slip?
C'est une bonne question, ça. Comment Julien Laurence fait les drôles de dames le lundi soir? En survêt,
habillé comme je l'ai été toute la journée.
Toute la journée. Donc
aujourd'hui, c'est survêtement. C'est plus la capuche Dolce & Gabbana. On fait les choses bien quand même.
Non, c'est pas vrai. Parce que moi quand j'étais, vous pouvez lire dans les livres de produits. Quand j'étais en télétravail à Madrid, je faisais les afters en caleçon David Beckham sur mon canapé.
Ah bon.
Ah chacun son truc, hein. Après, ça, on David pas
Beckham.
Trop,
ah ouais, il y a une marque de David Beckham.
Pas demandé à Apollo comment il s'habille lui les soirs d'antenne. Je pense qu'il est décontracté, tranquille. Il n'est pas en Dolce & Gabbana, mon cher Paulo.
C'est très variable. En fonction de la journée. Donc là, je suis en short, tu vois, avec mes charentaises communistes. parce qu'elles sont toutes rouges.
Ah, c'est pour ça, d'accord.
Et j'ai un gros pull de Union de Berlin. Parce qu'il fait pas chaud.
Tiens, on dirait une émission la nuit, tu vois. Macha Béranger.
Ah oui.
Bon, quelle voix.
Bonsoir, les sans-sommeil.
Quelle voix.
Harry Kane. Est-il toujours aussi indispensable avec la sélection anglaise? T'as la compo, Julien, pour ce soir déjà, au fait, ou pas?
J'ai la compo pour ce soir, effectivement.
Harry Kane, titulaire.
Et titulaire, ça, c'est sa 100e sélection. Mm. Ah, Wembley en plus, c'est quand même un... c'est un grand moment à vivre avec toute la famille Kane dans les tribunes, sa femme, les 4 enfants, papa, maman, tout le monde. Forcément, c'est un moment particulier, donc on savait qu'il serait titulaire, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que le débat s'est ouvert, notamment... pendant l'Euro, après l'Euro, un Euro où même s'il a fini meilleur buteur à égalité avec d'autres,
avec 12 mètres,
qu'il a marqué quelques buts, il a quand même été remplacé par Sylvain Ripoll 5 fois sur les 7 rencontres de l'Angleterre, dont la finale. Il a clairement pas été bon. Il a été beaucoup critiqué par des Gary Lineker, des Wayne Rooney, des gens comme ça qui sont aujourd'hui des consultants. Et surtout le match samedi en Irlande aussi où il a paru, c'est vrai, pas vraiment au top physiquement alors qu'il avait la veille, il avait répété encore une fois qu'il était physiquement et mentalement à son meilleur niveau, au meilleur niveau de sa carrière, lui qui a eu 31 ans donc à la fin du mois de juin. Donc c'est vrai que le débat existe, même si voilà, je pense qu'il existe, mais qu'il y a pas de danger sur le fait que Kane ne joue plus pour l'Angleterre. Il sera titulaire, que ce soit Lee Carsley qui reste comme sélectionneur ou quelqu'un d'autre qui arrive. C'est difficile de voir qui pourrait le remplacer. Oui, Solanke, c'est pas mal. Watkins, c'est très bien parfois. Tony, maintenant, est parti en Arabie Saoudite. Et puis, ça reste Harry Kane quand même. Le numéro 9 du Bayern, le numéro 9 de l'Angleterre. On l'a dit, 100 sélections, 66 buts, 72 sélections comme capitaine de cette équipe d'Angleterre, 57 buts avec le brassard. C'est un très grand attaquant, un très grand monsieur. Mais il y a ce sentiment quand même que c'est un petit peu plus laborieux pendant ces dernières semaines, ces derniers mois. On l'a dit à l'Euro, collectivement ça fonctionnait pas très bien. À voir si le nouveau sélectionneur, peu importe qui ce sera, peut revigorer un petit peu et Kane et le collectif offensif de cette équipe-là. Mais c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions en Angleterre sur son niveau actuel et sur le fait, est-ce qu'il a peut-être pas ses meilleures années derrière lui finalement.
31 ans, tu l'as dit. 44 matchs, 44 buts avec le Bayern la semaine dernière, mon cher Polo. Est-ce que c'est arrivé jusque chez toi, ces doutes, ou en Allemagne, il y a unanimité?
Bah, s'il veut prendre la nationalité allemande, moi je le prends, hein, y a pas de souci. Mais si tu veux, on est en début de saison, donc moi je vais pas, on va pas attendre des miracles. Il a pas fait de match extraordinaire avec le Bayern cette saison, mais on va attendre évidemment que ça monte en gamme. Moi j'arrive pas bien à comprendre ce débat avec pas d'Harry Kane, parce qu'il faut savoir par qui tu le remplaces quand même, quoi. Julien vient de le dire, c'est un monsieur, le mec. C'est pour moi c'est le meilleur neuf de sa génération, mais il a le droit évidemment d'avoir quelques semaines un peu plus moyenne que les autres. Mais tu le remplaces par qui? Et la seule question qui m'intéresse d'ailleurs, c'est comment est-ce que Ville Group, comme on dit en Angleterre, c'est-à-dire que ce qu'il pourrait faire qui fait moins de performance, c'est que il y a des inimitiés avec d'autres joueurs. Mais sinon, je vois pas comment on peut se passer d'Harry Kane, quoi. Sauf à dire que c'est une bête noire.
C'est ça qui est intéressant. Non, c'est intéressant. Donc il y a pour continuer dans ce que Polo vient de dire, il y a deux choses à l'Euro qui ont marqué les gens ici. La première, c'est le but de Watkins. En quart de finale, qui envoie les Anglais en finale, où c'est finalement un but à la Kane dans un sens, mais que Kane ne fait plus trop aujourd'hui, c'est-à-dire son appel en profondeur, la façon dont Watkins fait l'appel, la passe de Palmer et la frappe en une touche de balle comme ça croisée, et la réaction après ce but-là, alors dans toute la joie de la qualification anglaise, etc., tout ce qu'on veut, c'est le genre de mouvement que Kane ne fait plus, ou en tout cas que Kane n'a pas fait pendant l'Euro. C'est vrai qu'il a, en termes de mouvement, ça a été très compliqué pour lui. La deuxième chose, encore une fois, pour revenir sur continuer ce que Polo disait, par rapport à sa place dans le groupe, lui en tant que capitaine, lui en tant que joueur très expérimenté, un des plus anciens, il a quand même fait ses débuts pour l'équipe nationale en 2015. Pour vous donner un ordre d'idée, pour les auditeurs, qui connaissent très bien le football anglais, donc lui, il était le 1207e joueur à représenter l'Angleterre, un truc comme ça. Le 1208e, je crois, c'était Ryan Mason. Une sélection en tout, dans sa carrière. Après, on a eu un Callum Chambers, l'ancien joueur d'Arsenal, notamment. Et puis, tu crois, t'as même John Flanagan, l'arrière latéral de Liverpool, il y a quelques années. Donc, c'est pour vous montrer à quel point sa longévité. Les gars qui ont fêté avec lui leur première sélection quasiment en même temps, ils ont pas du tout duré, ils ont disparu très très vite des radars de la sélection anglaise. Donc, il y a ce statut-là. En finale contre l'Espagne, il y a un incident, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, hein, en plus qui est sur le côté du terrain, en face des bancs de touche, face aux télévisions aussi, où Jude Bellingham crie vers le banc de touche, dit à Kane qu'il se mette à presser maintenant. Et là, on est au milieu de seconde période. Il va très bientôt après, il sortira d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'à un moment, les autres joueurs anglais de la sélection, et c'est Bellingham qui l'exprime de cette façon-là. Alors je pense qu'il y avait le fait qu'il jouait une finale, il y avait la pression, il y avait tout ça. Il aurait peut-être pu le faire différemment, mais là il l'a fait aux yeux de tous. Tout le monde a vu, tu pouvais lire sur ses lèvres facilement qu'il disait, mais en gros j'en ai marre, on en a tous marre que Kane ne presse pas, alors qu'on veut être une équipe qui presse. Le problème, c'est que si ton capitaine, ton numéro 9, qui devait être le premier joueur à presser, puisque le pressing part toujours de ton avant-centre, c'est quand même très très compliqué si ton avant-centre ne le fait pas. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs point d'interrogation, on va dire, sur pas simplement l'état de forme d'Harry Kane, parce que quoi qu'il arrive, on l'a dit, ça restera un très très grand buteur. Le but, il l'a en lui, il a ce sens du but incroyable, il continuera toujours à marquer des buts. Mais est-ce qu'il est la bonne personne pour mener cette équipe-là, notamment en termes de pressing, par rapport à ce que les autres joueurs derrière peuvent apporter aussi?
Il travaille défensivement au Bayern, mon cher Polo?
Ouais, il travaille, ouais. Il revient beaucoup au milieu de terrain. Encore une fois, il y a peut-être les années qui passent aussi, mais on n'a jamais... Enfin, il est considéré comme le plus grand des professionnels au Bayern Munich. C'est-à-dire, Thomas Tuchel disait, il y avait lui et les autres, quoi. Et pourtant, il y a des joueurs comme Thomas Müller et tout ça. Mais je voudrais revenir à ce que dit Julien, parce que pendant l'Euro, on m'a fatigué, RMC m'a fatigué, avec l'Angleterre, et on a beaucoup parlé de Bellingham, blablabla, tout le monde avait plein la bouche, etc. Moi, je constate que l'attaque contre Kane provient de Bellingham. Et Bellingham n'est pas un joueur d'équipe. Bellingham est quelqu'un qui va prendre le pouvoir, qui va mettre des coups de couteau dans le dos pour prendre le pouvoir. Et le fait qu'il attaque directement l'actuel boss, puisque capitaine de la sélection, n'est tout sur une surprise. Et peut-être qu'un jour, on comprendra pourquoi Bellingham n'était pas spécialement apprécié à Dortmund.
Est-ce que Kane est vraiment le boss quoi de la sélection anglaise? C'est la question. Est-ce qu'il a la personnalité pour l'aide, pour s'affirmer? Bellingham semble en tout cas... réclamer ce statut-là, on en a fait les débats.
Moi c'est la méthode pour prendre le pouvoir qui m'intéresse.
Ouais, ouais,
et on en reparlera peut-être avec Fred dans 2-3 ans au Real. Et vous verrez pourquoi est-ce qu'on n'aimait pas Bellingham à Dortmund. Et je trouve que c'est pas, si tu veux, le on peut attaquer Harry Kane sur ses performances, etc. Mais moi, ce qui est le fait, c'est que ça arrive par Bellingham. Et je le vois gros comme une maison, Bellingham. Donc, c'est pas sur ses performances, la façon dont il veut avoir le pouvoir qui m'intéresse.
Ben, ça va être intéressant, parce que l'an dernier, le Real a tout gagné, donc c'est facile. C'est quand les coups durs vont arriver que la personnalité de chacun va ressurgir. Donc moi, je fais confiance à Polo et j'attends de voir.
Oui, mais moi, je me pose la question, Julien, pour conclure sur Harry Kane. Est-il un leader vraiment? Est-il un leader vocal? Est-il un leader charismatique de personnalité? Je pose la question quand même.
Ses gestes, hein.
Julien.
Non, le charisme non. Charismatique, on veut pas trop dire ça, mais beaucoup moins que Bellingham, par exemple. Et oui, il y a aucun doute là-dessus, même à 10 ans d'écart. Hein. Mais après, oui, ça reste un leader par la carrière déjà. Même si il sera ce soir le 10e centurion, donc comme les appellent les Anglais, le 10e joueur anglais à plus de 100 sélections, le seul à n'avoir jamais rien gagné avec son club. Ça, je pense que ça pèse dans le vestiaire aussi, dans le mauvais sens pour lui. C'est-à-dire qu'un Bellingham, par exemple, pour revenir à ce qu'on vient de dire, qui a tout gagné déjà à 21 ans, il regarde aussi Kane en disant d'accord, je veux bien, t'es mon capitaine, t'es un très très grand buteur, mais t'as jamais rien gagné non plus.
Il n'a rien gagné, en club, ni en sélection, évidemment.
C'est triste, parce qu'il méritait tellement.
Ça peut être d'une carrière, le plus grand joueur de l'histoire à n'avoir rien gagné.
Et puis le foot est très superstitieux. Hein.
Tout à fait, exactement.
Ah bah, c'est un milieu ultra superstitieux, donc automatiquement ça pèse.
Voilà pour Harry Kane. Dans un instant, Polo va encenser comment faire autrement le duo Wirtz-Moussiala, duo offensif de la National Mannschaft. On en parle avec les drôles de dames. Vous écoutez RMC, il est 20h32.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain. Julien Laurence, Yoann Crochet, Fred Hermel et Polo Breitner. 20h35, on est ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle, à 21h45, vous appelez, vous posez vos questions aux 4 drôles de dames. Allez-y, le 32-16 est ouvert. Max est là au standard. Et puis, il y a le chat sur la chaîne YouTube pour envoyer vos questions également. Polo, l'Allemagne a étrié la Hongrie 5-0. C'était samedi soir. Duo virtuose, hein, que beaucoup attendaient pendant l'Euro, mais qui grandit bien aujourd'hui. Post-Euro, le duo Wirtz-Moussiala, qui fait, et on n'est pas surpris, l'unanimité chez toi, mon cher Polo.
C'est extraordinaire. Pardon.
Vas-y.
C'est extraordinaire ce qui vient de se passer, parce que malheureusement, on aurait voulu voir ce duo à ce niveau-là lors de l'Euro. Et Fred a commencé avec Suisse-Espagne. Et quand j'ai vu l'Espagne jouer et l'Allemagne jouer contre la Hongrie, je me dis, mais j'aurais bien aimé voir ce Allemagne-Espagne en quart de l'Euro, parce que c'était d'un niveau technique assez, je parle de l'Espagne évidemment, et de l'Allemagne assez extraordinaire pour la National Mannschaft. Je n'ai pas vu une telle qualité technique dans cette sélection depuis, je ne sais pas quand, je n'ai pas trouvé encore. C'était assez impressionnant. Je pense que l'Espagne, parce que je fais un comparatif, je vais vous parler de Wirtz et Moussiala, a gagné l'Euro et s'est libéré par rapport à ça, et maintenant en gros on peut marcher sur tout le monde. Et moi, à l'inverse, j'ai l'impression que l'Allemagne s'est aussi libérée d'un Euro à domicile où il fallait absolument réussir. Finalement, on a fait un Euro très relativement moyen, même si on a perdu contre la meilleure équipe du tournoi. Et celle que j'ai vue contre la Hongrie, était d'une facilité technique extraordinaire, voire trop facile pendant les moments. Donc il va falloir serrer un peu la vis pour des lorsqu'on jouera contre des grosses cylindrées. Mais c'est vrai que le duo Wirtz-Moussiala, donc on joue en 4-4-1-1 avec Kaya Wirtz qui joue derrière un numéro 9, c'était Füllkrug, ce soir contre les Pays-Bas, ce sera Undav. Et puis deux milieux offensifs excentrés que sont Wirtz et Moussiala. Et comme on dit en Allemagne, mais où est-ce qu'il y a ça dans le monde, quoi? C'est-à-dire que si c'est... Moi, c'est ce que je disais, pour l'Euro, réussir un bel Euro pour la National Mannschaft, c'était évidemment comment le duo allait s'entendre ensemble. Et évidemment, lorsque les deux sont à ce niveau-là et que Wirtz est à 100%, a plus ses problèmes techniques, ses problèmes physiques de l'année dernière ou de fin de saison, il était fatigué, ben tu t'amuses. Alors évidemment, on va dire que c'est que la Hongrie. Ben quand on connaît la Hongrie de Rossi, on sait qu'ils ont fait des résultats depuis quelques années, depuis beaucoup d'équipes. Donc moi, j'étais impressionné. Alors évidemment, ça a explosé la Hongrie à la 60e minute et ensuite ça a joué dans tous les sens. J'oublie pas en première mi-temps le fait que la Hongrie que Ter Stegen a fait un arrêt de classe mondiale pour éviter de se prendre un but. Donc ça, c'était important. Mais c'est vrai que le duo Wirtz-Moussiala, t'as envie de dire, mais toute l'équipe ne jouait que pour eux deux, quoi. T'as pas envie de dire, ah ouais, mais j'ai des super latéraux, j'ai des super mecs à la récupération, j'ai les meilleurs centraux du monde, etc. T'as juste envie de dire, bossez pour ces deux petits prodiges, et puis vous verrez que le titre 2026 aux Amériques sera pour l'Allemagne. Et c'est un peu le discours qui sort en ce moment.
J'adore, oui. Aux Amériques, bien sûr.
Il parle comme Christophe Colomb.
Il se prépare pour le débat Trump-Kamala Harris. Ça l'intéresse ce soir, Polo. Moussiala, un but, trois passes décisives sur ce match. Petit coup de gueule de Max Eberl, directeur sportif du Bayern, parce que son joyau n'est pas dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Jamal est l'un des joueurs les plus fascinants du football international avec des capacités exceptionnelles et uniques. Il n'a rien gagné l'an dernier. C'est un critère.
Ouais, non, mais bien sûr, on peut voir ça comme ça, mais enfin, je préfère avoir.
C'est le critère que des Moussiala, évidemment, bien sûr.
Oui, non, mais bon, en plus, Max Eberl, il fait ça pour la pub du Bayern, évidemment, la communication. Il n'aurait pas fait ça s'il était resté à Mönchengladbach ou à Leipzig, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de ne pas voir Moussiala dans cette liste-là, tellement il va marquer, comme Florian Wirtz, c'est chacun avec leurs qualités et leurs défauts, la prochaine décennie. C'est-à-dire que, techniquement parlant, c'est assez impressionnant. On attend juste la maturité de ces deux joueurs. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Moi, quand je vois le Moussiala aujourd'hui qui commence à avoir des cuisseaux qui m'intéressent, alors qu'il y a deux ans, je disais qu'il fallait qu'il mange de la viande, etc., ça commence évidemment à m'intéresser pour voir comment ils évoluent physiquement. Wirtz, évidemment, dans les petits espaces, etc. Moi, j'adore ça. Donc, je suis vraiment impressionné par cette équipe d'Allemagne. On va demander confirmation, évidemment, ce soir face au rival néerlandais, où là, permettez-moi un petit coup de gueule, parce que jusqu'à fin 2024, ça va faire 8 rencontres contre les Pays-Bas en 6 ans, enfin la rivalité commerciale devient un petit peu ridicule au bout d'un moment. Mais toutes ces choses-là, parce que quand il n'y a pas la Nations League, eh ben c'est évidemment des matchs amicaux entre les deux associations, donc ça devient un peu ridicule au bout d'un moment.
Pourquoi commercial, Polo?
Ben parce que tout ça a été fait pour des raisons de rivalité au départ, et on a transformé la rivalité pour des raisons commerciales, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça date des années 90, en fait. Milieu des années 90, la rivalité entre les Pays-Bas et l'Allemagne était très moche, parce que dans les tribunes, il se passait plein de choses. On pensait que ça s'était calmé entre les joueurs, et notamment avec la victoire des Pays-Bas en 1988, qui permettait un peu aux Pays-Bas de relever la tête, etc., et de dire maintenant on a gagné, c'est bon, c'est fini. C'est les discours de Van Basten et tout ça. Sauf que c'était dégueulasse dans les tribunes. Il y avait des choses qui se passaient qui étaient pas belles. Et donc, on s'est dit, bon, on va se rencontrer tranquillement. On va essayer de faire ça proprement, sauf qu'au bout d'un moment, ça devient ridicule chaque année de quasiment avoir un duel entre les Pays-Bas, quand c'est pas deux, et la National Mannschaft. Donc voilà, moi j'adore cette histoire-là. Pendant un moment, j'ai même rêvé d'écrire un livre là-dessus pour expliquer le pourquoi du comment de cette rivalité. Mais il reste que certains journalistes néerlandais qui n'ont pas accepté l'histoire et qui sont toujours en train de poser des questions bizarres en conférence de presse. Mais sinon, c'est pas enfin 8 fois en 6 ans, honnêtement, c'est pas normal, quoi.
Fred,
non, parce que tu parlais des absents en Ballon d'Or. Il y a eu cette déclaration de Rodrigo qui a dit qu'on était un petit peu déçus de pas être dans les 30. On peut comprendre, parce que là, si dans les critères, il y a aussi le nombre de titres, on peut penser que Rodrigo, c'était pas mal ou plus. Mais surtout, maintenant, le Ballon d'Or, c'est la saison. Donc, sur la saison, Rodrigo n'a pas encore la concurrence d'Mbappé. Donc, il est là tout le temps, quoi. Et il est essentiel dans les victoires des 3 titres du Real Madrid, quoi. Donc, là aussi, on peut s'interroger.
On peut s'interroger, exactement. Bon, voilà pour la semaine Mannschaft, hein. Confirmation attendue ce soir, bien sûr. Si vous écoutez podcast, vous avez déjà le résultat. Évidemment, Pays-Bas, Allemagne, qui sera débriefé dans l'after d'ailleurs tout à l'heure avec Polo et Johan, puisque là aussi on parle d'une de ses dépendances. Danemark, Pays-Bas, Italie.
Alors historiquement, c'est pas toujours cohérent, mais c'est son cœur qui bat.
Non, mais c'est ceux qui vont à la Coupe du Monde, quoi. Comme ça, il peut choisir, il change.
Oh, tu les gars, dommage que tu vois pas sur YouTube.
N'oubliez jamais
l'émission.
Que les Pays-Bas étaient romains pendant très longtemps.
Ah. Ouais, bah, puis Espagne,
je pense que tout le monde a été romain pendant.
Oui, tout le monde. Oui.
Vous m'appartenez, c'est tout.
On t'appartient, c'est facile. Quand on a 12 nationalités.
Non, mais c'est vrai que nous sommes les fruits d'une colonisation.
Tout à fait.
Bah, oui. Tout à fait. Vite un débat.
Fruit de l'histoire.
Non, mais on est lundi. Je veux dire, moi, je suis de l'Artois. Nous étions des Atrébates. Les Atrébates, c'était la tribu gauloise de l'Artois. Nous avons été romanisés, christianisés. Voilà.
On était comme ça. Le fruit de l'histoire. Moi, je suis aussi le fruit de l'histoire. Sans la colonisation française, en Algérie, je serais pas là.
Parce que toi, tu es.
Voilà.
Tu es descendant de pied-noir?
Non, pas pied-noir.
Non. Non, c'est vrai. Algérien.
Voilà.
Je savais pas.
La minute de Julien Laurence. L'air Craig Bellamy commence bien. Mon cher, on envoie la musique, mon cher Barnabé.
Je voulais la laisser chanter un petit peu, bien sûr.
Il est parti à la cuisine.
Ah oui, on est obligé. Non, tu peux pas couper.
T'as raison, Patina, quoi.
Tu peux pas interrompre Shirley Bassey avant qu'elle chante Goldfinger, quand même.
Quoi.
Ah oui, 1964. Ouais. Bien sûr. Dame Shirley Bassey, d'ailleurs. Hein, l'une des plus grandes chanteuses, bien sûr, du Pays de Galles. Alors, un tout petit pays comme ça, produire des artistes pareils, c'est quand même assez incroyable. Et donc, on a choisi Shirley Bassey, bien sûr, pour parler du Pays de Galles, de Craig Bellamy, tu l'as dit, victorieux hier. Bon, au Monténégro, dans des conditions dantesques, si vous avez vu les images, sous la pluie, le vent, etc., etc. Mais une bonne victoire. 2-1, avec des buts marqués très tôt. Une équipe jeune qui avait déjà séduit pas mal lors du match précédent, 4 jours plus tôt, contre la Turquie à Cardiff, même si les Turcs avaient joué pendant une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure à 10 contre 11, avec l'expulsion de Baris Yilmaz. Ça avait été plutôt vraiment intéressant de la part du Pays de Galles avec Craig Bellamy. Rappelez-vous du joueur qu'il était, hein, un peu fou dans sa tête, capable d'attaquer au club de golf Jordan Norris, par exemple, son coéquipier à Liverpool, après une soirée un peu trop animé, on va dire. Donc un peu fou, mais comme entraîneur, lui qui a travaillé avec Vincent Kompany, donc qui est un disciple de Guardiola un peu indirectement, on va dire, mais qui partage pas mal des principes de jeu qu'on a déjà vu un petit peu en place hier soir et il y a 5 jours de ça. Donc voilà, un très bon début pour l'air Bellamy avec le Pays de Galles.
Craig Bellamy, Polo. La bande originale, Goldfinger.
Bah, t'as vu cette voix? Et je sais qu'il y a des groupes anglais. Il y a des groupes anglais qui ont repris, quelle horreur, par rapport à la voix. T'as pas le droit de faire ça, quoi. Enfin,
après Shirley Bassey, surtout.
Bah, bien sûr, enfin, il y a des trucs.
Du Jacques Brel, tu sens pas du Jacques
Brel. C'est évidemment. Enfin, il y a des mecs, enfin, c'est insupportable. Sinon, il doit y avoir Gert Fröbe qui joue en 1964 dans le film d'Hamilton, si je me rappelle bien, qui joue le méchant.
D'accord, intéressant. On ira vérifier.
C'est un des meilleurs, au passage. Goldfinger, c'est un des messages.
Oui, c'est un des meilleurs, tout à fait.
Les afters après sélection, on a quand même plus de temps, c'est plus cool, en fait.
Oui,
on peut faire des dégâts.
Abandonnons les championnats.
Moi, je vais gérer l'horloge, les amis. Il faut qu'on fasse une pause. Car dans un instant, aussi, Johan nous parlera de l'homme des deux derniers matchs de la nationale, et Davide Fratesi, l'interiste remplaçant de Lux en sélection et à l'Inter également. On en parle avec Johan dans un instant. Vous écoutez Génération After spécial dans le Dame.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain. Vous avez manqué pendant la pause le waouh de Johan Crochet, l'ouverture du score des Bataves face aux Allemands, Johan.
De Reinders, avec un très bon mouvement de Brian Broby, qu'on critique assez souvent aux Pays-Bas pour son manque de jeu d'au but, malgré sa stature, et la manque de justesse surtout de son jeu d'au but. Là, c'était plutôt intéressant avec Ravenberch qui lance en profondeur Reinders.
Je peux poser une question
là-dedans. Il ne faut pas dire Bataves.
Ah pardon, excuse-moi, j'ai dit. Alors, dis-moi pourquoi.
Parce que c'est une région en fait, c'est une région allemande.
C'est comme la Hollande.
Voilà, c'est ça. Je crois, de mémoire, c'est une région allemande considérée comme rustre, très rustre.
D'accord.
Et donc voilà, moi aussi, t'inquiète pas, j'ai été dans le culte du Batave et on ne peut plus dire les Batave.
Néerlandais, voilà.
Bon, une question à la con, Johan. T'as une finale de Coupe du Monde Italie-Pays-Bas.
Italie.
Donc c'est bien.
Pays-Bas-Danemark.
Pays-Bas.
Danemark-Italie,
oui. Italie.
Évidemment.
Parlons d'Italie. Danemark.
Parlons d'Italie, justement. Davide Fratesi a marqué contre la France. But splendide. Il a marqué encore une fois contre Israël. C'était hier soir, notamment. Tu voulais en parler ce soir. Tiens-nous le portrait de ce joueur-là, qu'on n'est pas forcément très bien en France, qui n'est pas un titulaire dans son histoire. Il a déjà bien vagabondé en Italie, notamment.
Non, je disais en intro que c'est un joueur indispensable, mais rarement titulaire. Et c'est vraiment ça. Alors, c'est tout bénef pour Simone Inzaghi, qui sait qu'il a un milieu de terrain de grande capacité, notamment à faire des différences. Oui. Ça, c'est très important quand tu as un effectif et une saison très longue et des matchs que tu peux débloquer en fin de rencontre quand tu fais rentrer. C'est très important pour Luciano Spalletti, qui là, hasard plus ou moins du calendrier et du choix de Barella de se faire opérer du nez pendant la trêve internationale. Donc Fratesi s'est retrouvé à jouer les deux matchs comme titulaire, alors qu'on sait très bien que quand Barella va revenir, il y a quand même de grosses possibilités pour que celui qui paye un peu le retour de Barella, ce soit Fratesi. Encore que, on peut imaginer Tonali devant la défense, mais tu perdrais beaucoup de choses sur le pressing qu'il est capable d'amener à son poste de relayeur, où il y a besoin d'être un peu moins discipliné que devant la défense. Fratesi, ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie de ces joueurs qui ont commencé à être formés à la Lazio, puis ils sont passés à la Roma.
Oui.
Centre de formation de l'un à l'autre, comme Gianluca Scamacca d'ailleurs, qui a fait aussi ce chemin-là. Et qui d'ailleurs il plaisantait il y a pas si longtemps que ça, Fratesi racontait que lors de matchs dans les équipes de jeunes de la Lazio, quand il jouait pas, il s'amusait à crier ouais, on est pour la Roma sur le banc de touche. Pourquoi pas. C'était pas forcément le truc le plus intelligent, je pense, à faire quand tu joues à la Lazio, qui a eu l'opportunité d'aller à Sassuolo, parce qu'en Italie, même si on est à la Roma et que c'est un club qui globalement de manière continue sur son histoire, a plutôt fait confiance à des jeunes joueurs, notamment des joueurs issus de son vivier. Lui, il n'a pas eu cette occasion-là. Donc, il est allé à Sassuolo, il a été en prêt à Empoli, à Monza en Serie B, monté ensuite avec Monza, qui a ensuite joué titulaire à Sassuolo, qui s'est imposé. Et c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il a dû élever son niveau de jeu, a réussi. Première saison en Serie B, il est décisif, il marque des buts, il fait des passes décisives. Monza, même chose, dans un club plus affirmé qui joue la montée. Il arrive à Sassuolo, Serie A, le passage Serie B, Serie A, pas toujours très simple. Lui, il répond tout de suite, présent. Il arrive en sélection, il répond présent. Il arrive à l'Inter, il répond présent. À chaque fois qu'il doit répondre présent, il joue la Ligue des Champions. Première fois qu'il joue la Ligue des Champions, je crois qu'il finit de mémoire avec un but, trois passes décisives sur la campagne de Ligue des Champions. Il n'est pas toujours titulaire non plus. Donc c'est quelqu'un qui, quand on lui demande d'élever son niveau de jeu, se met au niveau parce qu'il a aussi une dimension physique. Plus le jeu augmente de niveau, plus généralement l'intensité augmente, plus la dépense énergétique augmente. Et lui, avec son coffre, sa capacité de course vers l'avant, mais aussi pour revenir, pour équilibrer le jeu, sa capacité à presser aussi, on le voit sur le but de le deuxième but italien, quand Raspadori tire et que c'est Moisken qui reprend. C'est lui qui va au pressing comme un dératé qui fait 30 mètres de sprint pour aller presser, récupérer le ballon, se projeter, faire la bonne passe qui normalement doit être une passe décisive pour Raspadori, mais le gardien chope le ballon et c'est Ken qui marque. Donc c'est quelqu'un qui a cette dimension athlétique-là qui est évidemment très collée à l'évolution du foot, qui doit améliorer son jeu avec ballon, ça il n'y a pas de problème, mais toute la technique en mouvement, il l'a. La technique jeu arrêté, il l'a un peu moins. C'est pour ça que ça ne pourra jamais être un meneur de jeu ou un milieu de terrain devant la défense. Il n'a pas cette technique-là. C'est quelqu'un qui, quand on prend ses stats, moi je trouve ça bluffant à quel point il a été important à l'Inter la saison passée. 6 buts, 3 passes décisives en 955 minutes de jeu.
En Serie A ?
En Serie A. Donc quasiment décisif toutes les 100 minutes de jeu, impliqué sur 9 buts et passes décisives, 955 minutes de jeu. Je le dis en Ligue des Champions, 3 buts, une passe décisive en 400 minutes de jeu. On retrouve la barre des 100 minutes. 8 buts et assists impliqués sur 8 buts, je crois que c'est 7 et 1 de mémoire, en sélection nationale, en 21 sélections. En 21 sélections, impliqué sur 8 buts, 7 buts en 21 sélections. Meilleur buteur depuis que Luciano Spalletti est arrivé à la tête de la sélection nationale. On parle souvent des attaquants de Chiesa, de Retegui, de Scamacca. Non, le meilleur buteur est largement, parce que les autres, ils sont à 2 buts, les autres joueurs. Donc, il est très, très largement meilleur buteur. Et pour autant...
Et pourquoi alors?
Je ne suis pas persuadé.
Particulièrement,
notamment dans son rapport avec le ballon. Simone Inzaghi préfère Mkhitaryan, qui a un autre toucher de balle, qui est très actif comme lui, mais qui est un peu plus propre, qui offre moins de transitions aux adversaires, qui est encore un peu plus cérébral, alors que Fratesi est un peu plus instinctif encore. Ça se voit, c'est un joueur qui a sans doute été habitué à se reposer sur ses qualités athlétiques, sur je fonce et après on voit comment ça. Hein, alors que Mkhitaryan, ancien meneur de jeu, beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de lecture de jeu, de situation. Et en sélection, c'est pareil. Si aujourd'hui vous dites Tonali, Barella ou Fratesi, bon, Tonali, Barella, ça paraît être quand même les deux titulaires au poste de relayeur. Mais pour autant, c'est un joueur qui est indispensable pour son profil et surtout pour sa capacité à mettre des buts. Je veux dire, c'est peut-être, vous savez, on a souvent utilisé le terme super sub pour des attaquants. Un des plus connus, c'est Solskjaer, évidemment. Les mecs qui sont jamais des titulaires, mais qui rentrent et te marquent des buts. C'est peut-être un des premiers cas, je n'ai pas refait toute l'histoire du foot, mais d'un relayeur qui devient super sub pour marquer des buts. Ce n'est pas forcément ce qu'on demande à un milieu de terrain quand il rentre. Ça peut être évidemment de se projeter, etc. Mais on demande aussi de l'équilibre, du tempo, du contrôle. Lui, il apporte autre chose. Et c'est très... j'ai que le terme anglais, valuable, très...
valorisant.
Ouais, pour ses entraîneurs, parce qu'ils savent que avec ce mec-là, tu vas amener un autre profil de joueur et surtout tu vas amener de la qualité pour ton équipe, mais des difficultés pour les adversaires. On le voit, un milieu de terrain qui va jouer dos au jeu, qui va récupérer le ballon, il sait que Fratesi il arrive comme un taré derrière lui en pressant et qu'il a intérêt à avoir un contrôle très propre ou avoir une feinte de corps très propre ou avoir une première passe impeccable. Et moi, je trouve que ce type de joueur-là, malheureusement, risque de payer le fait d'avoir des joueurs qui ont un rapport ballon beaucoup plus fort que lui pour être titulaire dans une sélection très performante et dans un club qui ambitionne de gagner tous les ans le championnat et qui ambitionne tous les ans ou presque d'être performant en Ligue des Champions. Mais c'est vraiment un joueur qui est très très peu connu et qui est peut-être pas le plus beau à voir jouer, encore qu'il s'est amélioré. Mais par contre, il a une dimension physique et surtout une volonté tout arrachée en permanence qui est assez folle.
Voilà pour Davide Fratesi, vous le connaissez un peu mieux, il a 24 ans, Davide Fratesi.
Ouais.
C'est encore un jeune joueur d'ailleurs.
Exactement, et c'est un des plus gros gagnants de cette sélection nationale.
Allez, on va dans un instant, pause. Il y aura 3 minutes dans la deuxième heure, on a pris un peu de retard. Celle de Polo arrive également, celle de Fred aussi. Et celle de Johan. Restez avec nous, toujours à zéro pour les Pays-Bas face à la National Mannschaft après 13 minutes de jeu. À tout de suite.
RMC.
C'est quelqu'un d'une intelligence suprême. Et après, sur le terrain,
suprême,
quelqu'un qui est aussi attachant.
Parce que... On se calme.
Ah non, mais il a un QI qui est largement au-dessus du tien, Fred.
Normand, moi, d'origine.
T'es d'où, toi, Polo?
La famille, c'est Saint-Lô.
Ah, c'est juste à côté.
Une ville nouvelle.
C'est juste à côté. On leur a mis 4-0 en championnat, c'est cadeau.
Pépé, t'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Et quand je te faisais les ongles, il y avait des ongles à ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg. Et toi, t'avais pas besoin de Scott.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Julien Laurence, Fred Armel, Polo Breitner et Johan Crochet.
Tu sais qui était Pépé?
Non.
Pépé, il y avait le joueur, mais Pépé, c'était la guenon de Léo Ferré.
Ouais. Ah oui, c'est vrai.
Et cette chanson, quand Pépé meurt, sa guenon meurt, il fait une chanson qui s'appelle Pépé. Un jour, le match où il y avait Pépé qui jouait, j'étais en commentaire à Bernabéu, j'avais chanté.
D'accord. Fred, profite, vous avez compris, il est international pour faire des digressions. Pourquoi pas?
Ah, bah oui, non, parce qu'après, on est toujours.
Mais moi, j'ai un programme.
J'ai raconté cette histoire, hein, on la connaît, cette histoire.
En plus, ben non, mais bah oui, mais c'est
la sort.
Je te rappelle, Fred, que Alain Saint-Maximin a un QI largement supérieur au tien.
Ouais, mais après le QI, pour moi le QI scientifique ne représente rien.
C'est pas que scientifique peut-être.
Bah si, le QI c'est, attends, excuse-moi, le QI c'est un truc scientifique.
Il est où Saint-Maximin d'ailleurs, Julien, aujourd'hui?
En Arabie Saoudite. Il a été prêté à Fenerbahçe, exactement.
Tout à fait.
Ouais. Enfin, il était en Arabie Saoudite et
Est-ce qu'il a un grand QI pour ça?
Avec Mourinho.
Avec Julien.
Ah ouais, d'accord.
Fred, tu voulais nous parler du match Leganés-Majorque. Alors pas tant, c'était en Ligue 1, dernière journée, pas tant pour le résultat,
débat, en fait.
Ni le fond de jeu, plutôt pour l'audience qu'il a suscité ce match.
Ouais, parce qu'en fait, j'aime bien regarder les audiences parce que je pense qu'il y a un risque majeur pour le foot. Et j'ai l'impression qu'on attend moins les matchs parce qu'il y a trop de matchs. C'est-à-dire qu'il y a une surabondance de matchs qui est en train de détruire notre désir de foot. Moi, il y a encore quelques années, quand t'arrivais à un gros match, etc., t'étais une semaine sans foot et t'avais envie. Maintenant, on voit bien, du vendredi. De toute façon, il y a des matchs tous les jours maintenant. Vous regardez, il y a des matchs tous les jours.
Oui, bah, c'est les droits télé qui ont étalé les matchs sur 3 jours.
Et donc,
4.
je regarde les audiences, j'aime bien regarder ça. Vous avez un match quand même de Liga, c'est juste avant la trêve, donc c'était le 31 août, 21h30, c'est-à-dire le prime time en Espagne, et Leganés Majorque a fait 31 000 téléspectateurs. 31 000, dans un pays de 47 millions d'habitants, fous de foot. Moi, je trouve ça dramatique.
Enfin, Leganés Majorque,
excuse-moi. Ben oui, mais enfin, mais quand t'aimes le foot, enfin, non, mais excuse-moi, mais 31 000, c'est rien. 31 000 personnes à la télé. C'est-à-dire qu'un programme qui fait 31 000, on le supprime. Il n'y a aucun programme de télé au monde qui fait 31 000 une deuxième semaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est dingue. Puis après, il y a eu d'autres aussi. Tu as quand même le Alaves Las Palmas qui fait 47 000. Bon, après, tu as le Real Madrid Betis qui fait 1 200 000. Parce que c'est Real Madrid. Mais je veux dire, 31 000. Donc la question que je voulais poser aux amis, c'est est-ce que chez vous, vous avez aussi des matchs qui font des scores totalement ridicules? Donc on peut dire, on peut se poser la question de la légitimité de ce genre de match. Après moi je trouve que moi je milite pour les premières divisions à 18 clubs déjà parce que 20 voilà il y a des clubs qui je dis pas qu'ils méritent pas d'être en première division mais qui n'intéressent pas grand monde. Alors après attention il y a du monde dans les stades en Espagne hein. Ça c'est bien reparti cette saison etc. Mais le football vit aussi du foot mais je trouve que la surabondance de matchs notamment à la télévision fait que bah il y a plein de matchs qui n'intéressent personne. 31 000 sur 47 millions d'habitants,
tu sais,
c'est une hérésie.
Si ce match est gratuit, il fait 10 fois plus.
Bah, je vais te dire combien.
Si ce match est en accès gratuit, il fait 10 fois plus minimum.
Tu sais combien.
Parce que tous nos matchs, y compris chez vous, hein, Italie, Allemagne, Espagne, France, Allemagne, sont aujourd'hui payants, bien sûr.
Non, mais là, je vois,
dès que tu mets de la gratuité, on en parlait avec Yohan avant l'émission, l'audience explose. Ouais. C'est pas tant un désintérêt, peut-être pour le football ou pour ce genre d'affiche.
Il y a un match gratuit en Espagne. Hein. Il y a un match gratuit par semaine. Hein. Donc là, c'est Osasuna Celta, 186 000.
Bah oui. Bah, c'est beaucoup mieux quand même.
Ouais, mais c'est pas beaucoup quand même, 186 000 personnes.
Mais ça, moi, je crois pas que ce soit nouveau. Hein.
Avec un cher, c'est-à-dire une part d'audience de 2,1%.
Tous les pays pareil. Hein.
Ouais.
Je pense qu'un Angers-Auxerre, un Angers-Auxerre en France, pareil. Un Ipswich-Southampton chez moi, c'est pareil. Hein.
Et le Angers-Auxerre d'il y a 15 ans, c'était pareil. Hein. C'est, pour moi, c'est absolument pas nouveau que les petits matchs ne fasse pas une énorme audience. Tout est lié aussi à ton bassin de population, à ta zone de chalandise.
Leganés, c'est 190 000 habitants.
Ouais, mais ça représente quoi l'échelle du foot espagnol?
Non, mais je veux dire, mais je sais pas, mais moi je trouve que 31 000, c'est catastrophique.
Oui,
mais chez toi, t'en as aussi qui font peu.
Moi, le Monza Empoli, enfin Empoli Monza, la première journée, elle fait 11 000.
Non, mais 11 000 personnes, enfin, je veux dire, c'est.
Oui, mais c'est aussi le foot payant quand l'affiche est pas attendue, pas excitante.
Et puis c'est pareil, il y a un truc. Enfin, moi, les audiences à la télé, le système de mesure, ça paraît un peu archaïque.
C'est-à-dire?
L'espèce d'échantillon qu'on multiplie par X pour donner un truc d'audience.
Ah, les audimates.
Non, c'est des fourchettes.
Ah ouais, mais là, c'est facile.
Bon. Bon, après, il y a la question, tu parlais du désir, quoi. Ça, c'est encore un autre sujet, finalement.
Oui,
quoi.
C'est ça.
Des matchs, on a autant qu'avant. En championnat, je veux dire. La vraie différence.
Mais il y a plus d'autres matchs. Ton équipe,
c'est que désormais, ces matchs-là sont étalés sur plusieurs jours. Oui. C'est ça aujourd'hui.
Et c'est pas ça. Et puis en plus, en semaine, t'as des matchs tous les jours.
Donc effectivement, il y en a fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, on attendait le match. Voilà, absolument. C'était
l'événement. On disait le match. Voilà. On disait, d'ailleurs, c'est ce que je dis, on disait le match.
Bon.
T'as vu le match? Aujourd'hui, c'est. Paul, t'as vu combien de matchs?
Après, tu comptes pas l'IPTV, tu comptes pas Telegram. Peut-être que beaucoup l'ont regardé, ce Leganés Majorque.
Mais la question, de toute façon, peut-être qu'on aura le débat, parce qu'en France, il y a le débat sur le piratage. En Espagne, c'est le cheval de bataille de Tebas, le président de la Ligue.
Mon cher Paulo. Alors que le cheval de bataille, ça devrait être l'accessibilité.
C'est un vaste débat et je suis pas sûr qu'il y ait qu'une seule bonne réponse s'il y a bonne réponse. Par exemple, en Allemagne, lorsqu'il y a des audiences, il faut voir que la notion de beauté des équipes, c'est-à-dire qu'elles jouent bien, ne rentre pas du tout en compte. C'est-à-dire que le téléspectateur lambda ne va pas se dire « Ah, Hoffenheim joue super bien cette saison, tous les week-ends, je veux regarder Hoffenheim ». Il préfère suivre son club qui joue d'une façon complètement pourrie. Donc ça,
c'est très important. D'ailleurs, ce qui est un débat très important pour la répartition des droits télé, puisqu'on est toujours en train de regarder les audiences faites par tel club Schalke, par exemple, avec son bassin de population, à Boët en seconde division, fait plus d'audience que Hoffenheim, alors que Hoffenheim joue nettement mieux. Ensuite, la question de il y a trop de matchs à la télé, ouais, mais il y a peut-être pas les bons, surtout. Parce que moi, j'appuie toujours sur le côté culturel des choses. Si je veux m'intéresser au championnat autrichien et voir le derby de Vienne entre le Rapid et l'Austria, je suis forcé d'aller dans l'illégal. Parce qu'on ne m'autorise pas à le faire. Par contre, on va me dire, tiens, tu vas avoir un forfait pour regarder tout le championnat autrichien. Ensuite, je suis assez d'accord avec Fred, il y a trop de matchs dans le sens où tout le monde... On a développé des sous-produits inintéressants. Ça permet d'abêtir complètement, d'ailleurs, la population. C'est-à-dire, on regarde le match, tu me laisseras tranquille, le gamin, etc. Plutôt que d'avoir culturellement... Ah oui, évidemment que c'est ça. Non, c'est d'abrutir complètement les gens. C'est pas compliqué. Hein. On regarde un match de foot, tac, 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 ils comprennent rien, mais c'est pas grave. Et plutôt que d'expliquer l'histoire du foot, etc. Mais ensuite, c'est la globalisation qui veut ça. C'est on augmente les Coupes du Monde avec 48 nations qualifiées. Pareil avec l'Euro, etc. Plutôt de s'intéresser à la densité. Qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui en Italie comme club pour faire un championnat intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant en Allemagne pour avoir un championnat intéressant, une deuxième division intéressante? Qu'est-ce qu'on fait pour développer les autres championnats européens? Non, moi, chacun, on prend des produits comme ça, tiens, la France, le ceci, le cela, et puis on regarde ou on regarde pas, ou plus par réflexe, et on fait pas autre chose d'ailleurs. Je dois en être à pas loin de 100 matchs depuis la reprise de la Bundesliga, parce qu'il y avait la deuxième division allemande depuis que je suis revenu de vacances. Il y a un moment, tu vois, je me dis, je fais ça parce que j'aime ça. Mais il y a un moment, je sature complet. Et donc, je me demande comment les gens font pour tout suivre et analyser les choses correctement.
Et puis, c'est notre métier. Quand c'est pas ton métier en plus,
Et puis, d'analyser les choses, regarder les choses. Mais moi, ce qui me déplaît le plus, c'est pas le fait qu'il y en ait trop ou pas assez. Parce que moi, par exemple, j'aimerais avoir un produit où on m'offre les meilleurs matchs du championnat néerlandais. Par exemple, j'adore suivre le PSV, etc. Les grands clubs, peut-être qu'il faudrait que j'en regarde d'autres. Mais en tout cas, j'ai envie de voir ce genre de duel. Mais culturellement, c'est complètement absent dans les offres. Les journalistes qui commentent les matchs, culturellement, je suis désolé, ils sont pas au niveau. Je passe sur les systèmes de qui commande, pourquoi, comment on paye les gens. Le football aujourd'hui, c'est un produit de masse. Donc c'est pour la base, c'est pour l'abêtissement total de la population. Il n'y a pas de culture derrière, il n'y a rien. Donc voilà, c'est pour les gamins de 10 ans, ce que je disais il y a quelques temps et qui m'a valu une remontrance de RMC qui m'a appelé. Voilà, c'est exactement ça. Mais faut pas s'étonner, quoi. Je veux dire, quand tu fais du Mbappé H24, au bout d'un moment, faut pas s'étonner, quoi. C'est, voilà.
Voilà.
En Angleterre, ils ont trouvé la solution. Hein. Juste pour finir parce que les matchs du samedi à 16h française, donc 15h anglaise, ils sont pas à la télévision. C'est le fameux blackout dont on a souvent parlé déjà dans l'émission. Mmh. Donc souvent les matchs pourris d'ailleurs, tu vois ton Ipswich Fulham, ton Southampton Everton, ou je sais pas ce truc de là, c'est 15h. Donc soit tu pirates, soit tu peux pas le voir. Donc ou tu vas au stade quoi. Mais sinon, au moins comme ça, t'as pas les audiences puisqu'ils sont pas à la télévision.
Mmh. Bon, je rappelle que la Série A n'est toujours pas diffusée en France, et ça aussi c'est historique. Voilà.
Non mais c'est presque scandaleux.
Ça. Moi, scandaleux. Mais tu vas pas obliger des boîtes privées à acheter des droits.
L'Italie,
si elles n'ont pas envie, malheureusement, c'est ainsi.
Non, mais c'est presque scandaleux par rapport à l'histoire de l'immigration italienne en France.
Bien sûr, bien sûr.
Moi, j'ai été élevé là-dedans. Ils m'énervaient tout. Il y avait des Italiens partout. Donc, on discutait avec eux. Mais c'était génial. Bon, en plus, c'était la bonne période, évidemment, quand j'étais gamin avec la Série A qui était. Mais
t'as raison, on ne mesure pas assez le préjudice de la non-visibilité de championnat italien en France. On a grandi, nous, moi, avec l'équipe du dimanche notamment. Les joueurs qu'on a adorés, qu'on a adulés, époque Batistuta et autres. Aujourd'hui, le gamin de 15 ans, s'il veut découvrir la culture du foot italien, il ne peut pas en France. C'est incroyable.
Il faut penser d'une autre façon, les gars aussi.
Julien.
Non, faut le penser d'une autre façon, parce que le Leganés Mallorca de Fredo, là, s'il fait 31 000 en Espagne, combien il fait en France sur beIN Sport?
Il fait rien, mais
c'est comme ça, en fait.
Il est pas diffusé sur beIN Sport.
Exactement.
Il est diffusé en version originale.
Oui, voilà, sur un canal.
Non, mais c'est
sur
les canaux. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que tu vas aller dépenser 100 millions d'euros, à la saison, ou 50 millions d'euros la saison, pour un championnat qui finalement, à part les deux classicos, le Real Atlético, quelques matchs par-ci par-là, mais t'as aussi beaucoup, beaucoup de matchs que personne va regarder en France?
Oui, bien sûr.
Parce que déjà,
en
Espagne, ils les regardent pas. Donc, en France, c'est ça aussi qui est compliqué, je pense, pour les chaînes. Mmh. Pareil pour l'Italie, même pour l'Angleterre, même pour l'Angleterre, pareil.
Mais il y a un truc, pour terminer, tu parlais de trois matchs. Moi, je pense que si des matchs comme ça, tu les mets les trois en même temps et que tu fais un petit multiplex bien rythmé, eh ben, ça, t'as plus envie de le voir qu'un Leganés Majorque.
Possible. Voilà, pour ce débat, la minute de Polo, c'est parti. On envoie la musique, mon cher Barnabé.
Ça vous plaît, messieurs?
Ouais, j'aime bien l'intro.
Unsichtbare Tänzer.
On danse, non?
Les danseurs invisibles de... Moi, j'ai oublié son nom, évidemment. C'est Andreas Daro, qui est un spécialiste de la MDV, la Neue Deutsche Welle, la nouvelle vague allemande des années 80, et ce tube doit adapter d'il y a quelques années. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Parce que j'ai voulu vous parler d'Offenheim. On n'a pas eu le temps l'année dernière de vous en parler, mais le club d'Offenheim, vous savez, qui était très critiqué puisqu'il était détenu par un milliardaire, Dietmar Hopp. Et l'année dernière, Dietmar Hopp a décidé de rendre ses parts à l'association. Et finalement, le club d'Offenheim est devenu un club comme les autres, donc où règne le 50+1, la fameuse règle du 50+1. Et donc, officiellement, Dietmar Hopp n'a plus d'influence dans ce club-là. Donc, on ne pourra plus théoriquement dire que ce club est détenu par un milliardaire et qui fait ce qu'il veut, etc. Sauf que, évidemment, dès qu'on passe dans le système associatif, il y a les votes, il y a les présidents qui sont élus. Et évidemment, il y a eu les élections qui ont eu lieu, et c'est ce fameux monsieur Albrecht, qui est l'ancien maire de Sinsheim, qui a été élu comme président d'Offenheim. Et évidemment, monsieur Albrecht est très proche de monsieur Dietmar Hopp, comme par hasard. Et les supporters sont pas du tout contents, parce qu'ils espéraient, ils ont même proposé un candidat qui était issu du milieu ultra pour penser un petit peu ce qui se passait, et ils ont perdu, et ce nouveau président, ils le traitent de marionnette, etc., et qu'ils ne veulent vraiment plus d'influence de Dietmar Hopp dans le club. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est que je défends le modèle associatif, mais nous rappelons que c'est un système démocratique, qu'on a le droit de gagner, de perdre, et surtout il est imparfait. C'est-à-dire que critiquer un milliardaire qui amène son argent pour créer artificiellement ce club d'Offenheim, parce que c'était le trou du cul du monde, faut dire ce qu'il y a à Offenheim, c'est 300 habitants. Et maintenant passer dans le système démocratique à l'allemande associatif fait qu'il y a aussi des désavantages, c'est-à-dire que c'est les grandes familles qui se réunissent pour avoir le pouvoir aussi. Donc on a l'impression qu'à Offenheim, ils le découvrent. Donc c'est pour ça, Offenheim est devenu un modèle, un club comme les autres en Allemagne, excepté Leverkusen et Wolfsburg, mais c'est aussi un club qui va découvrir la démocratie, et la démocratie est fondamentalement imparfaite.
C'était la minute de Polo. Là voici, dans un instant, Julien nous parle du travail pour l'instant de Lee Carsley, sélectionneur intérim par intérim de l'équipe d'Angleterre, toujours 1-0 pour les Pays-Bas face à l'Allemagne. Après 33 minutes de jeu, les Drôles de Dames sur RMC, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Fred Hermel, Yoann Crochet, Julien Laurence et Polo Breitner. 0-0 entre l'Angleterre et la Finlande après 32 minutes de jeu. Toujours 1-0 pour les Pays-Bas face à la nationale Mannschaft. Justement, on parle de l'Angleterre avec Julien Laurence, Lee Carsley, sélectionneur par intérim. Invaincu, un match, une victoire, 2-0 contre la République d'Irlande. Il a fait une petite polémique quand même, mon cher Julien. Je voulais qu'on en parle rapidement aussi avant de développer ses idées.
Oui, effectivement, polémique pour Lee Carsley. Je pense qu'il avait vu venir dans un sens. C'est pour ça qu'il a quasiment annoncé, il a déclenché la polémique finalement lui-même avant la rencontre contre l'Irlande samedi, puisque donc lui, l'ancien international irlandais, puisque même s'il est né en Angleterre de parents anglais, ses grands-parents étaient irlandais, donc il a pu prendre la nationalité irlandaise, et à l'époque il n'était pas assez bon pour jouer pour l'Angleterre, mais assez bon pour jouer pour l'Irlande, donc il a 40 sélections ou 39 sélections pour la République d'Irlande. Donc c'était assez un clin du destin, dans un sens que pour sa première comme sélectionneur, même intérimaire, de l'Angleterre, ce serait à Dublin contre l'Irlande, etc., etc. Donc la belle histoire dans un sens. Sauf que la belle histoire, elle a tourné aussi à la polémique, donc, parce qu'il a annoncé avant qu'il chanterait pas l'hymne anglais, donc le God Save the King, avant la rencontre contre l'Irlande. Il s'est expliqué d'ailleurs, il a dit, voilà, même quand j'étais joueur, même quand j'ai porté le maillot de la République d'Irlande, je chantais pas l'hymne parce que je suis dans mon match, je suis concentré, je pense pas à chanter, c'est pas mon truc. Ça se respecte, ça s'entend, je pense. Sauf que ça a créé forcément une polémique assez incroyable en Angleterre, politisée forcément aussi. Bien sûr, les gens ont dit, bah alors s'il chante pas l'hymne national, il peut pas devenir sélectionneur à temps plein, permanent. même si la fédération le souhaiterait, parce que c'est manquer de respect au roi, à la couronne d'Angleterre, au pays, etc. Blablabla. Donc voilà, malheureusement, il a commencé par une belle victoire, une très bonne première mi-temps, avec beaucoup de choses intéressantes tactiquement. Le placement de Trent Alexander-Arnold, qui est beaucoup plus comme à Liverpool, même s'il débute arrière droit, il entre beaucoup au milieu de terrain en phase de possession. On a vu Declan Rice un petit peu plus haut que d'habitude. On a vu Jack Grealish un peu en numéro 10, rôle libre dans un demi-espace gauche qu'il apprécie beaucoup avec Gordon à sa gauche, qui est lui un pur ailier gauche. Donc, il y a plein de choses vraiment intéressantes. Et pourtant, on a parlé beaucoup, beaucoup plus du fait qu'il n'ait pas chanté l'hymne que de
la France. Il ne peut pas assumer sa vraie position. J'ai du mal à le croire parce qu'effectivement, il dit avant le coup d'envoi, je suis dans une bulle, je pense à la façon dont la serve va se mettre en place. C'est pas la réalité, certainement, Julien. On est d'accord quand même. Il voulait pas avoir de problème avec
les Irlandais. Je sais pas. Il chantait pas l'hymne irlandais non plus. Donc, est-ce que c'est parce qu'il était né en Angleterre? Après, t'as des joueurs qui chantent pas l'hymne, hein, c'est peut-être parce qu'ils sont concentrés. Ouais. C'est pas un homme à problème. C'est un homme à conviction, je pense. Je le connais pas du tout, hein, mais il a plutôt l'air d'être un homme à conviction. S'il avait voulu marquer des points, il aurait chanté l'hymne. Il savait, voilà. Mais le fait qu'il ait pas voulu, je sais pas. C'est pas sa grand-mère ou son grand-père irlandais qui sont décédés depuis, qui lui en auraient voulu. Ils sont pas là, ni ses parents. Enfin, je sais pas pourquoi il l'a pas voulu chanter. Donc, je pense qu'il était sincère quand il a expliqué pourquoi il allait pas le chanter.
Bon.
Ouais, moi, c'est un débat éternel là-dessus, mais moi, j'aime bien quand même. Voir les joueurs, les sélectionneurs.
Après, tu fais ce que tu veux, non?
Moi, je suis d'accord avec toi, je dis.
Ton pays, tout ça, et je.
Mais c'est pas parce que tu chantes pas que ton pays, tu le représentes pas, effectivement. T'as pas chanté sur le terrain,
Bien sûr. Ton comportement. Mais.
En France, il y a des polémiques avec Christian Carambeu, mais pour l'autre raison également. C'est des raisons politiques.
Voilà, c'est encore un autre.
Non, mais Karim chantait pas non plus l'hymne national. Voilà, c'est parce que. Non, mais après, c'est marrant parce qu'après, donc. Les deux buteurs pour l'Angleterre, c'était les deux anciens internationaux irlandais, Rice et Grealish. Rice a pas célébré son but. Il a fait avec ses mains, il a fait genre je m'excuse, pardon. Voilà, il a expliqué après que il aurait trouvé ça un manque de respect envers sa famille à lui, ses grands-parents paternels qui étaient irlandais, etc. Même s'ils sont décédés depuis. Grealish, lui, il a célébré son but comme s'il avait marqué contre une autre équipe, quoi. Donc c'est pareil, chacun. Tu peux pas en vouloir à Grealish pour célébrer un but. Clairement, après sa frustration de ne pas avoir été sélectionné pour l'Euro, par exemple, et Rice d'avoir préféré ne pas célébrer un but qui, pourtant, pour lui, j'imagine, vaut beaucoup. Marquer pour ton pays, c'est peu importe contre quel adversaire, ça, c'est très important. Donc, pour moi, le chanter l'hymne ou pas, c'est un peu pareil aussi.
Après, c'était un acte manqué, mais avant le match, il s'est trompé de banc également, Lee Kersley.
Il était allé c'est assez marrant.
Alors qu'il devait prendre place sur le banc anglais. Johan, l'Italie, on en a parlé avec David Fratesi, parlons de la nationale, la sélection dans son ensemble. Dommage de victoire après un euro manqué, raté, catastrophique, peut-être le pire de l'histoire. S'il fallait donner des bons points sur ces deux matchs, à qui faudrait-il les donner?
Il y a pas mal de joueurs qu'on a vus, revus, découverts à cet échelon-là, au niveau de la sélection, qui ont marqué des points. Il y en a d'autres pour qui ça va être un peu plus difficile, même si pour moi, je pense que ceux qui ont un peu raté leurs deux matchs, ou un des deux matchs, ne vont pas disparaître de la sélection de Spalletti. Mais c'est clair que dans la hiérarchie, dans la confiance qu'ils peuvent avoir sur leur possibilité de jouer titulaire, ça va être un peu amoindri. Du côté des grands gagnants, évidemment, c'est le milieu de terrain complet sur ces deux matchs qui n'a pas bougé. Ricci devant la défense, le joueur du Torino. Et puis Tonali et donc Davide Fratesi, même si... J'imagine qu'avec le retour de Barella, c'est Fratesi qui va sauter et qui va retrouver un petit peu le banc de touche. Ce milieu de terrain-là s'est montré à la hauteur aussi bien contre la France que contre Israël, dans des configurations de match un peu différentes, dans la gestion du ballon, dans le contrôle du match, dans la gestion des émotions aussi, dans la capacité à faire mal, à être aussi dynamique, à être toujours en mouvement, à toujours créer une solution pour le porteur de balle. À redescendre, à s'insérer, à se projeter. Vraiment, il y a eu des choses très très intéressantes. Du côté des joueurs qui ont marqué des points, et pour moi c'est vraiment indiscutable aussi, c'est Calafiori, qui maintenant est passé chez Julien Laurence, qui a été génial et reprenait le débrief qu'on avait fait du match contre la France sur le rôle hybride qu'il avait eu en phase de possession, où d'abord, en première mi-temps, il était très écarté sur le côté gauche pour donner une solution de sortie vers Di Marco ensuite, qui était un peu plus haut, et où, quand Samuel Ricci était pris en individuel par Griezmann, Spalletti a fait le changement en le mettant
dans l'axe, vraiment au poste de numéro 6, et avec sa capacité technique à bien orienter, à bien voir les situations, à être juste techniquement, il a fait la différence. Donc à la fois sur la partie défensive, mais la partie construction du jeu, il était très important. Buongiorno hier a fait un très bon match, qui remplaçait donc Calafiori qui s'était blessé contre l'équipe de France. Buongiorno dans un style très différent, beaucoup plus stopper à l'ancienne, dur sur l'homme, agressif. Il a été très très bon, style vraiment très opposé de Calafiori. Du côté des joueurs qu'on n'imagine pas forcément titulaires tout de suite ou qui vont se battre pour un poste, Raspadori et Kin hier ont fait un bon match contre Israël. Moïse Kin qu'on n'avait pas vu depuis maintenant pas mal de temps. Et c'est sans tout ça, Scamacca, Scalvini blessé, Chiesa qui a été laissé pour faire une préparation avec Liverpool. Barella blessé, Locatelli qu'il n'a pas pris parce qu'il estime qu'il connaît ce qu'il peut apporter et qu'il avait envie de voir d'autres profils qui peuvent encore. Il estime que Locatelli, son jeu est très codifié et qu'il ne changera pas aujourd'hui. Spalletti estime ça de Locatelli au milieu de terrain de la Juve. Il estime que Ricci, Fratesi, Tonali peuvent apporter autre chose et peuvent faire évoluer leur jeu. Donc il y a quand même, dans ce fameux réservoir, se disant qu'il n'existe jamais en Italie, il y a quand même des joueurs intéressants. Sur les joueurs qui ont raté un peu leurs prestations, Pellegrini, lors de la première mi-temps, il n'a joué qu'une mi-temps, il est sorti un peu blessé contre l'équipe de France. Pellegrini, c'est vraiment très paradoxal parce que c'est un des joueurs les plus créatifs de la Nationale. Quand vous prenez l'ouverture qu'il fait en étant arrêté pour la tête de Cambiaso qui donne sur la tête de Fratesi qui fait la barre contre l'équipe de France en tout début de match, Fratesi d'ailleurs qui était encore là présent pour conclure, il y a très peu de joueurs qui sont capables de mettre un ballon parfait comme ça sur la tête de Cambiaso, sur un mouvement renversé. Par contre, il a des vrais trous où il disparaît totalement, où il n'a pas la bonne attitude, il a passé son temps par terre, à réclamer des fautes, à pester après l'arbitre, ça ne plaît pas forcément à Spalletti qui attendait une autre attitude. Et en plus, moi, il y a un truc qui me frappe chez ce joueur-là, c'est un joueur qui ne sourit jamais. Alors effectivement, il est romain, et les romains sont un peu particuliers. On a toujours l'image du romain extravagant, qui hurle dans la rue. C'est très différent. Les Romains sont très mélancoliques. Parfois, ils peuvent être très fermés aussi en privé. C'est un peu l'histoire de la descendance du peuple déchu. On était tout, maintenant on n'est rien. On a un peu comme ça.
La chute en purement, ça date quand même.
Ouais, mais ça se transmet de génération en génération. Et c'est vraiment un truc qu'on voit. Moi, qui me choque chez lui, t'as envie de dire, garçon, souris un peu à ton football, à la vie, et peut-être que ça ira mieux parfois. Quoi. Donc il y a Pellegrini.
Pour certains, sourire est une faiblesse désormais, même dans le foot. Hein.
Ouais, oui,
Benzema ne souriait pas beaucoup, par exemple.
Quoi. C'est sa personnalité.
Et notamment en défense, termine là-dessus. Outre Bellanova qui a pas fait un bon match contre Israël, mais a priori c'est quand même plutôt bouclé pour Cambiaso. Il y a quand même Gatti et Di Lorenzo où il y a pas mal de questions. Parce que sur ce poste de défenseur central axe droit, c'était déjà galère à l'Euro, c'était galère avant l'Euro et c'est encore galère après l'Euro. Mancini avait raté son match contre la Suisse, il avait pas été bon à l'Euro. Di Lorenzo a été catastrophique contre l'Espagne, il a été catastrophique contre la France dans l'utilisation du ballon. L'ouverture du score de Barcola vient évidemment de son truc hallucinant. Mauvaise gestion du ballon. Et Gatti contre Israël n'a pas été bon. Donc, si avec Calafiori, Bastoni, on a des super joueurs, Buongiorno a fait une bonne aussi entrée, enfin, bonne titularisation à la place de Calafiori sur le deuxième match. Les droitiers en défense, il y en a. Alors, on va espérer sur le retour de Scalvini, mais je ne suis même pas certain que ça suffise.
Voilà, donc pour le bilan de Johan sur ces deux matchs de la Nationale. Et tiens, l'heure de la troisième minute, je rappelle que l'Allemagne a égalisé hein, face aux Pays-Bas.
Exactement.
Grâce à Denise Undav, qui a égalisé à la 38e minute de jeu.
Et notre ami Ronald Koeman et son délire de mettre Jurrien Timber à air gauche continue.
Inquiétude également pour Nathan Aké. Exactement. Sur blessure, Julien, ça n'a pas dû lui échapper également. La troisième minute de la soirée est espagnole, on envoie la musique. Barnabé.
Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito.
Atahualpa Yupanqui, l'un des plus grands chanteurs argentins de l'histoire, indigène. D'où ça, il n'a pas un nom, il n'a pas un nom espagnol, c'est Atahualpa Yupanqui, donc faisait partie des rares indiens qui restaient en Argentine. C'est un descendant. C'est une chanson très célèbre qu'il n'a pas écrite, mais qu'il a entendu d'une vieille femme qui chantait ça à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, une femme noire, descendante d'esclaves. Et c'est une chanson qui parle des descendants d'esclaves qui, même après avoir été affranchis, travaillaient pour peu d'argent dans les champs. Et la chanson, c'est la maman qui dit à son petit garçon, dors petit noir,
Enfin, c'est la voisine qui s'occupe. Il dit ta maman va revenir, elle va te ramener ça parce que la mère elle travaille, etc. Donc c'est une grande chanson de la souffrance du peuple noir en Amérique latine. Et d'ailleurs le mot negrito, petit noir, est passé. C'est un mot de tendresse qui est passé dans le langage, dans l'espagnol courant en Amérique latine, quand on veut dire quand mon pote, mon ami, mon enfant, c'est negrito. On se souvient que Cavani avait eu quelques problèmes en Angleterre quand il avait utilisé ce mot-là. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on va encore parler du racisme et des Noirs qui subissent le racisme. Il y a une déclaration, une interview de Vinicius à CNN lors du dernier break international où il a dit quelque chose de très fort qui a fait un scandale énorme en Espagne, disant qu'il y a un vrai problème de racisme dans le foot espagnol et que si ce problème-là ne s'arrange pas d'ici au Mondial 2030, il faut enlever le Mondial à l'Espagne qui, je vous le rappelle, co-organise avec le Portugal et le Maroc. Vous imaginez ce qui s'est passé en Espagne, on l'a accusé de choses, alors qu'il a raison de dire oui, il y a un problème, ça s'est amélioré, mais là, depuis quelques années, c'est terrible ce qui se passe en Espagne. Et résultat, trois jours après, en deuxième division, lors du grand match entre le Sporting Gijón et Oviedo, eh ben, il y a eu de nouveau des cris racistes contre un joueur maghrébin d'Oviedo. Je ne vais pas dire ce qu'ils ont été dit, mais voilà, ce qui est en espagnol, c'est très mal dit. Donc voilà, Vinicius a raison de dénoncer ça. Et tant que l'Espagne ne reprendra pas le pouvoir sur ce sujet-là, ne nettoiera pas de nouveau ces stades, eh ben oui, l'image de l'Espagne sera détériorée au niveau international. Alors je ne sais pas si le mondial sera en danger, mais en tout cas, on a raison de se poser la question.
C'est la minute de Fred. 2-1 pour l'Allemagne désormais. Kimmich, le capitaine, a marqué pour les Allemands. Ils étaient menés 1-0, ils mènent 2-1 désormais.
Pourquoi tu hurles quand tu parles allemand?
Kimmich, parce que j'ai fait allemand et j'aime bien dire Kimmich.
Deuxième langue,
Deuxième langue, 16 au bac, à l'oral, messieurs.
Ah, 14 à l'écrit.
Sur un texte qui s'appelait Diplomaten auf dem Fahrrad. Diplomate qui était à vélo en Allemagne, voilà. Pas intéressant du tout. On revient dans un instant, pause.
Si.
Restez avec nous, la suite c'est avec les drôles de dames dans un instant.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec les quatre drôles de dames, c'est la mi-temps. L'Allemagne mène 2-1 face aux Pays-Bas et Angleterre-Finlande. C'est toujours pas la mi-temps. Si c'est la mi-temps, 0-0 entre les Anglais et les Finlandais. Débrief tout à l'heure dans l'after avec Gilbert Bribois. Proposition de Polo par mail. On s'envoie des mails dans la journée. Vous envoyez vos propositions et puis on fait des choix. Il voulait, pendant cette trêve internationale, eh bien, évoquer le club de vos championnats respectifs qui ne vous intéresse pas vraiment, historiquement. Pourquoi pas? Je sais que Fred était content de l'idée. Johan, le problème, c'est que lui s'intéresse à tous les clubs, Serie A, Serie B, Serie C. Il trouve une histoire toujours à raconter, évidemment, aussi. Polo aussi, d'ailleurs, mais ça n'empêche pas de moins s'intéresser, ou en tout cas de fustiger un club en Allemagne. Lequel, mon cher Polo?
Bah, c'est évidemment Wolfsburg parce que son modèle est très particulier. Il est différent de quasiment la majorité des clubs allemands. Donc c'est ce qu'on appelle en Allemagne un Werksclub, donc un club d'entreprise. Il y en a déjà un en Allemagne, c'est Leverkusen qui est comme ça. Mais ce qui est très intéressant avec Wolfsburg, si tu veux, c'est la première fois qu'ils sont montés en Bundesliga, donc c'était à la fin des années 90. Moi j'étais en Allemagne et je suivais ce club-là qui n'avait très peu de moyens, qui appartenait déjà à la multinationale Volkswagen. Et il a fallu quelques années en Bundesliga, où il se sauvait tout le temps, il a fallu l'arrivée de Félix Magath pour qu'on change de dimension et qu'on décide, et que la multinationale Volkswagen décide de mettre beaucoup, beaucoup d'oseille dans le club pour en faire un club de niveau européen. Et ce qui est extraordinaire, à la différence de Leverkusen, par exemple, qui a une véritable identité, par les jeunes, par son histoire, etc., c'est que Wolfsburg, ils mettent chaque année de l'argent, donc ils vont acheter des joueurs à 15, 20, 25 millions, et en fonction, le public, c'est essentiellement des employés de Volkswagen. Il n'y a pas de culture pour pousser le club dans le stade. C'est un stade de 30 000 places qui fait rigoler en Bundesliga. Donc, qu'il soit en Ligue des Champions, qu'il soit en Coupe d'Europe, ce qui est leur standard normalement par rapport à l'effectif qu'ils ont, ils peuvent aussi échouer. Et en fait, c'est les joueurs qui décident est-ce qu'on fait une bonne ou une mauvaise saison. Les coachs passent, il y en a eu d'excellents, il y en a eu des moins bons, etc. Mais en fait, ce club ne serait pas là, ce serait exactement la même chose, parce que c'est un Werksclub. Et d'ailleurs, je me rappelle de Rudi Völler à l'époque, qui disait le vrai Werksclub, le vrai club d'entreprise, c'est nous, en parlant de la multinationale Bayer, évidemment. Et eux voulaient récupérer, évidemment, marketing, tout ça. Alors, il faut juste comprendre pourquoi Wolfsburg est arrivé à ce niveau-là. C'est parce qu'à l'époque,
l'époque, il y avait l'ancien PDG de Volkswagen qui s'appelait Winterkorn, avait décidé d'utiliser le club de football pour vendre le plus de bagnoles en Allemagne. Et donc, il a investi en tout par an plus de 200 millions d'euros. Et donc, voilà, Wolfsburg, finalement, ils sont pas en Europe depuis quelques années, tout le monde s'en fiche. Ils seraient en Europe, et Fred s'en rappelle, le duel contre le Real ou le titre surprise en 2016, il me rappelle bien, le titre surprise en 2009 sous les ordres de Félix Magal avec Dzeko et Graffité notamment devant. C'était des très belles équipes, mais en fait tout le monde s'en fiche. Ça fait pas la une des médias.
L'histoire de Wolfsburg, Polo, c'est que De Bruyne est passé par Wolfsburg. Voilà.
Ben oui, c'est mais ça. Il est parti, ils ont fait une belle plus-value, mais voilà, ça s'arrête là. Et Dzeko est évidemment un des meilleurs attaquants de sa génération.
Allez.
Mais tu vois les joueurs qui passent, et puis oui, et qu'est-ce qui reste historiquement parlant ? Ben on ne sait pas.
Est-ce qu'il y a un club dont tu te fous en Italie, mon cher Ivan ?
Non, il n'y en a pas. Ça va être très court parce que non, j'en ai pas. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toutes les politiques sportives qui sont menées, que je trouve tout bien fait ou ce genre de choses-là, mais. Même dans des politiques sportives mal gérées, j'y trouve un intérêt justement de voir ce qui est mal fait. Donc non, il y a pas. Non, on a fait la liste des clubs même ensemble tout à l'heure. Non, il y en a pas où je me dis bon, non, rien à faire. J'ai pas envie de regarder leurs matchs. J'ai pas envie de suivre ce qu'ils font, comment ils recrutent, qui ils mettent comme dirigeant, qui choisissent comme entraîneur. Non, il y en a pas. Fred.
C'est facile, c'est Retafe.
Ok.
Déjà un club qui est plus jeune que moi dans sa version actuelle, ben ça m'étonne. Il est né, j'avais 13 ans. C'est un club qui Retafe qui est composé, alors bien sûr il y a des gens qui sont très très fans de Retafe, il y en a quelques-uns, mais en général ils sont soit supporters du Real, soit supporters de l'Atlético. Retafe, c'est une grosse banlieue ouvrière, notamment avec l'aéronautique. Il y a un bout d'Airbus qui est fabriqué là-bas. Voilà, au sud de Madrid, c'est à peu près 30-40 bornes. Le président historique de Retafe est un socio du Real Madrid. Je trouve que c'est un club qui manque de personnalité. Alors ils ont essayé. Alors là aussi, j'écoutais ce que disait Polo. À un moment, ils ont essayé parce que comme il y a une cité un peu dortoir, il y a une grosse immigration en Espagne, une grosse immigration latino. Donc saison 2008-2009, c'était dit tiens, on va essayer de faire venir les latinos, notamment les équatoriens, qui sont la première communauté étrangère en Espagne. Et donc, ils avaient fait venir Guerron, qui était un joueur équatorien, qui était la petite star là-bas en Équateur. Ils l'ont fait venir ici. Ça s'est très, très mal passé. Mais ils avaient fait un plan marketing en disant on ramène un joueur pour remplir le stade avec des équatoriens. Donc voilà, c'est un club qui manque de personnalité. C'est un club qui tient surtout pour la personnalité de son président, mais qui maintenant, depuis quelques années... a comme personnalité de faire le football le plus monstrueux d'Espagne, violent. On parlait l'autre jour, zéro tir au but, enfin tu vois, zéro tir cadré, c'est-à-dire que c'est puis il fait froid l'hiver, enfin c'est vraiment, c'est, moi j'aimais pas aller à Retafe quand il fallait voir le Real ou le Barça, j'aimais pas aller à Retafe quoi.
Julien, est-ce qu'il y a un club en Angleterre sur lequel tu fais l'impasse, pour lequel tu fais l'impasse? Julien, es-tu là?
Si tu l'as,
Julien.
Pardon, excuse-moi.
Vas-y,
non,
Julien.
J'avais oublié de remettre le micro. Non, je disais, moi je suis comme Johan. Moi, même si je suis pas d'accord avec tout, les styles de jeu sont pas toujours, me font pas toujours kiffer. Mais je trouve qu'il y a toujours des belles histoires, des histoires à raconter. C'est toujours intéressant. De toute façon, il y a toujours quelque chose qu'on apprend en regardant toutes nos équipes. Donc pour moi, non, j'ai pas vraiment de club.
Oui, on peut apprendre ce qu'il faut pas faire. Ça, c'est clair.
Allez, la quatrième minute de la soirée.
Non, mais tu peux te dire ça, mais dans un sens, Fred, juste pour finir, Retafe qui se maintiennent, même si c'est un football qui nous plaît pas, même si c'est chiant, même si c'est bordelasse, même si c'est tout ce que tu veux, ça reste en soi quand même quelque chose d'assez bien de leur part, avec un petit budget comme ils ont, de réussir à se maintenir dans une ligue comme la Liga.
Ouais, mais moi je préfère Leganés par exemple, qui fait l'ascenseur, etc. C'est à peu près le même genre de club. Mais Leganés, c'est un club qui a 96 ans, c'est à peu près la même population, 190 000 habitants.
Après, Leganés n'est pas responsable de sa jeunesse.
Non, mais tu sais la différence entre les deux, c'est qu'à Leganés ils sont très sympas. À Retafe ils se la pètent.
Bon, la quatrième minute de la soirée, on envoie la musique, elle est italienne.
Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai. Ma so di certo a cosa stai pensando.
Lucio Battisti, e penso a te. Et je pense à toi. Pourquoi? Toute l'Italie pense à un ancien joueur en ce moment. Pense très fort à un ancien joueur, Toto Schillaci. Grand attaquant d'une Coupe du Monde, d'un mondial, le mondial 90. Et c'est.
Ah bah ouais.
Ah oui, mon Polo, je savais que ça allait te plaire.
Quand tu m'as dit grand attaquant, j'ai eu peur.
Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai précisé d'une coupe du monde. Voilà, exactement. Monde. Qui avait évidemment marqué
Coupe du Monde en Italie d'ailleurs, qui avait marqué évidemment ce Mondial 90 grâce à ses buts. Attaquant qui n'était pas spécialement attendu à ce niveau-là, parce que ça n'a jamais été un grand attaquant de championnat, même s'il y a eu un passage à la Juve qui n'a pas duré si longtemps que ça non plus. Mais c'était les nuits magiques des années du Mondial 90 en Italie, je vais y arriver, où tout semblait possible pour cette équipe italienne, qui ne l'a pas gagné évidemment, mais en tout cas tout paraissait possible. Il y avait un enthousiasme assez dingue autour de Toto Schillaci, qui était un peu le héros que tous les enfants voulaient devenir, c'est-à-dire arriver de nulle part, jouer en Coupe du Monde, marquer pour ta sélection, la porter à bout de bras sur une bonne partie de la compétition. Et Toto Schillaci est hospitalisé dans un état grave en ce moment. Ça fait plusieurs mois qu'il a annoncé qu'il avait un cancer, qu'il se bat contre ce cancer. Et il est dans un état assez compliqué, même si on a eu des informations aujourd'hui sur une amélioration de son état. Je passe sous le protocole médical, mais en tout cas, on va lui souhaiter évidemment de s'en sortir, de retrouver le sourire, de retrouver sa verve, sa personnalité, qu'il ne change pas, qu'il puisse continuer à nous raconter ses nuits magiques du Mondial 90. Et c'est vrai qu'en Italie, c'est compliqué parce que en décembre 2020, on a eu Paolo Rossi, qui était l'autre héros Coupe du Monde 82. En 2023, on a eu Gianluca Vialli, qui n'a pas marqué une Coupe du Monde comme les deux autres, comme Schillaci et Rossi, mais qui était une personnalité très appréciée, au-delà même d'être un grand attaquant, lui, pour le coup, de Serie A, mais qui avait une personnalité géniale, qu'on avait un peu redécouvert ou remis en lumière au moment de l'Euro 2021, puisqu'il était un des adjoints collaborateurs techniques de Roberto Mancini. On avait vu son importance, comment les joueurs l'adoraient, l'appréciaient. Donc ça fait beaucoup pour des attaquants qui ont marqué l'Italie et qui ont marqué une période très précise de l'Italie.
Et du foot européen, on était gamin à cette époque-là. Hein. C'est un nom qu'on retenait, qui émerge. La rythmique, Toto Schillaci, c'est un nom aussi qui claquait. Je trouve, et le personnage aussi, qui sort du chapeau pendant ce Mondial 90. Dans un instant, vos questions aux drôles de dames au 32-16. Restez avec nous, RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamin.
Avec les quatre drôles de dames et vous au 32-16, vos questions, j'accueille Quentin tout de suite dans Génération After spécial drôles de dames. Salut Quentin. Bienvenue sur RMC.
Bonjour messieurs.
Salut Quentin. Bienvenue Quentin.
Salut Quentin.
Alors,
Quentin.
T'es peut-être haut-parleur ou...
Non, c'est bon.
Parfait.
Tu mets bien ta petite bouche. Voilà.
Quentin, question pour qui?
Question pour Julien Laurence.
Alors vas-y, il t'écoute Julien.
Salut. Moi personnellement, je suis un très influent fan de Chelsea. Je vois beaucoup de choses encore. On peut beaucoup parler de nous. On aime bien ça nous. Et encore en ce moment, ce que j'ai du mal à identifier moi de mon côté, c'est ce qui se passe entre Boeli et Clearlake, à savoir qui veut quoi, qui est prône quoi, parce qu'on lit de part. D'autres, un pro Pochettino, un pro jeune joueur, un pro, enfin, pas mal de choses. On ne sait pas qui prône quelle politique en tant que telle. Et donc voilà, s'il y a des éléments là-dessus pour nous éclairer, ce serait tout bénef.
Julien.
Ouais, alors je pense malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, donc on va faire un petit peu vite, mais je pense qu'il y a une vraie maintenant guerre ouverte. Alors guerre, c'est peut-être un petit peu fort, mais trop de dissension finalement entre, on va dire, Ekbali, qui est le peut-être plus que Feliciano encore, le grand chef de Clearlake, qui détient 60%, 61% de Chelsea, et surtout Todd Boehly, qui n'a que finalement, Quentin, 13% des parts du club. Donc c'est rien finalement, quand tu 13% pour quelqu'un qui a pris autant la lumière, qui a autant décidé, alors que 13% sur 100%, c'est vraiment rien du tout, surtout par rapport aux autres. Je pense qu'ils sont irréconciliables déjà, donc ça se jouera effectivement sur soit Boehly qui a déjà pris pas mal de recul, qu'on voit beaucoup moins déjà, qui revendent ses parts ou pas, je sais pas, peut-être oui, mais je pense que de toute façon quoi qu'il arrive, on le verra beaucoup beaucoup moins. Et déjà on a vu avec Boehly, par exemple, rappelle-toi le premier match de Jadon Sancho après son transfert en tribune, il est assis à côté de qui? À côté d'Ekbali à Stamford Bridge. Donc je pense que c'est Ekbali qui a pris les commandes. Je pense que Win Stanley et Laurence Schuach, les deux directeurs sportifs, ça aussi hein, c'est il y a qu'à Chelsea qu'on voit ça, deux directeurs sportifs. Partout ailleurs t'en as qu'un qui décide, là ils sont deux à décider, mais ils sont quand même plus, ils ont toujours été plus pro Ekbali que pro Boehly aussi. Donc je pense que on va se diriger vers quelque chose où Ekbali va finir par tout décider, tout diriger lui-même via Clearlake, mais surtout sans Boli, et qu'ensuite à un moment il achètera, à mon avis Clearlake un jour aura les 100% du club, mais pour l'instant oui, c'est dommage un petit peu que quand on voudrait se concentrer sur le terrain et voir cette équipe se développer avec Maresca, avec les jeunes joueurs, etc., eh ben on en revient toujours au problème dans la direction, au problème par rapport à la politique de transfert, ce genre de choses-là, et je trouve que c'est un petit peu dommage.
Voilà Quentin, la réponse complète de Julien beaucoup. Concernant Chelsea. Je m'excuse d'avance pour Hugo qui a appelé également, qui avait une question à Julien concernant Paulo Fonseca. On en a parlé la semaine dernière, on en reparlera. Il peut rappeler Hugo concernant le Milan. Voilà, savoir si c'est l'homme de la situation toujours Paulo Fonseca après le début de saison raté du Milan. Voilà, c'est terminé pour les Drôles de Dames ce lundi soir. Merci de nous avoir écoutés. Dans un instant, l'after arrive. Il sera question notamment de la réélection de Vincent Labrune à la tête de la Ligue de football professionnel. Égalisation à l'instant. Des Néerlandais face à l'Allemagne. De partout, quel match après 50 minutes de jeu. L'after arrive dans un instant. Merci à tous les quatre.
Ciao, ciao.
Adios.
Ciao, ciao.
Génération After.